Ce soir, pour cette dernière émission de la saison de Connaître la suite, on a le plaisir de recevoir David Gagnon. Mais tout d'abord, en début d'émission, on va s'adresser avec Adam Defala. Donc, on se retrouve dans deux minutes à Connaître la suite sur les ondes du XM. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce dernier rendez-vous, comme je disais en introduction, à l'émission Connaître la suite pour cette première saison. Donc, 17 émissions qui vous ont été livrées comme ça à chaque semaine. Donc, ce soir, ça va nous faire un plaisir de le faire pour une dernière fois. Et comme on a mentionné, on espère vous retrouver l'automne prochain. Et je salue mon ami Danny qui est avec moi ce soir, qui est là depuis le début du projet Connaître la suite. Salut Danny.
Salut.
Ça va?
Ben oui, ça va, toi.
T'as l'air en forme pour cette dernière émission?
Oh yeah.
C'est-tu l'appel aux vacances qui fait que t'es aussi en forme que ça, non?
Non, c'est le stress d'avoir une grosse journée.
Ah oui, OK. Bon, ce soir, on va avoir encore là une très bonne émission et on a annoncé une grande primeur. Restez avec nous. Il y a un invité de... Ben, pas, c'est pas un, de marque, je veux pas utiliser ce terme-là, mais quelqu'un qu'on voulait avoir, quelqu'un qu'on apprécie et qu'on voulait avoir à l'émission. Et ce soir, on est heureux de l'avoir avec nous. Donc, c'est comme j'ai mentionné en début d'introduction, c'est David Gagnon, donc du site internet Antagoniste. Qui va être avec nous ce soir. Donc, entre-temps, vous pouvez déjà mettre cette adresse-là dans vos favoris, antagoniste.net. On en a d'ailleurs extrêmement parlé souvent durant le cadre de l'émission. On a référé souvent vers son site Internet. Mais avant tout, ce soir, on avait aussi sur notre liste pour cette première saison un invité avec lequel on voulait absolument parler parce qu'il a co-écrit un livre très intéressant. Et là, excusez mon mauvais anglais, mais le livre s'intitule Rescuing Canada's Rights et c'est évidemment Adam Defala qui est avec nous ce soir. Donc, on a le plaisir de s'entretenir avec lui. Bonjour, Adam.
Bonjour, Steve.
Ça va très bien?
Ça va bien, vous?
Merci. Hey, avant qu'on débute l'entrevue, j'aimerais dire aux gens que tu es quelqu'un qui œuvre en droit, en journalisme et en politique depuis plus d'une dizaine d'années. C'est ce qu'on pouvait lire dans ta biographie. Et je dirais que aussi, tu es quelqu'un qui est impliqué au niveau des médias, donc des quotidiens. Tu participes d'ailleurs encore, je crois, dans une chronique du National Post?
Oui, effectivement. Oui, j'écris à peu près une fois chaque deux semaines.
Okay.
Et j'écris également pour un site web aux États-Unis du Hudson Institute.
Ah, OK. C'est bien. Ce soir, tu es avec nous pour parler d'un livre que tu as écrit, et ça fait déjà 5 ans de ça, donc le livre « Rescuing Canada's Rights, Blueprint for a Conservative Revolution ». Et ce livre a vu le jour, c'est ça, comme je le disais, il y a 5 ans. Tu n'étais pas tout seul dans ce projet-là, hein?
Non. Je l'ai co-écrit avec une amie de longue date, Tasha Carradine, que c'est certain que plusieurs écouteurs connaîtraient.
Oui, oui, oui.
Parce que Tasha commente les nouvelles très souvent sur RDI et d'autres canaux. Donc, Tasha était mon comme une grande sœur, je vous dirais.
Ah oui?
Quelqu'un que je connaissais très bien. Elle était la présidente de l'aile jeunesse du Parti progressiste conservateur quand Jean Charest était le chef.
OK.
Donc, c'est à travers mon implication dans le Parti conservateur fédéral que je l'ai connue. Puis, on travaillait en journalisme ensemble, puis on avait eu cette idée en même temps qu'on devrait écrire comme une manifeste pour la droite canadienne. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, les choses étaient très différentes. Hein? Les libéraux étaient toujours au pouvoir.
Effectivement, oui.
Et la droite venait juste de se réunir. Il y avait deux partis, les progressistes conservateurs puis l'Alliance canadienne avant.
Mm-hmm.
Donc, c'était comme comme on dirait en anglais, un roadmap pour la droite au Canada.
Oui.
Et on a eu cette idée en même temps, donc on a décidé d'écrire le livre ensemble.
Bon. Et d'ailleurs, ce livre date de 5 ans. Et tout dernièrement, tu faisais un papier là que je pouvais lire, là justement, qui est disponible là, dans la revue Politique Option. Là. Tu faisais une revue là de justement de cette révolution-là après 5 ans.
Oui, effectivement. C'était un mise à jour.
Un mise à jour.
J'ai fait un petit survol des 5 dernières années, puis c'était comme un bilan. J'ai fait un bilan des 5 dernières années, puis j'ai discuté, de l'état du mouvement conservateur au Canada.
Oui.
Et j'ai également fait le bilan du gouvernement Harper et de leurs réalisations et des défauts.
Oui, bien justement, j'aimerais qu'on en parle un peu plus tard, mais avant, parce que là, on parle d'un livre, et ce livre est très actuel, parce que, et je dirais en même temps, la façon que vous avez structuré le livre, ça se lit très bien, et j'adore chacun des chapitres. Si on passe à travers les 3 parties importantes du livre, puis ensuite de ça, on retrouve beaucoup de chapitres à l'intérieur de ces 3 parties. La première partie était, bon, vous avez intitulé ça, et là, je vais le lire en anglais, parce que c'est comme ça que le livre a nommé le chapitre, donc The Past. Donc, la première partie du livre, ça se veut une revue du passé, donc de cette droite au Canada.
Mm-hmm.
Et vous avez passé à travers les parce qu'il faut le dire, hein, sur 100 ans de pouvoir au Canada, seulement une trentaine d'années ont été sous la gouverne de la droite. Hein?
Exactement, je pense que on a commencé le livre en disant que beaucoup de mouvements politiques peuvent regarder au passé pour de l'inspiration, mais pas la droite au Canada.
C'est très difficile. On n'a pas donc des racines de droite, malgré que certaines provinces comme l'Alberta ont les partis conservateurs depuis fort longtemps au pouvoir.
Oh oui, oui, c'est sûr. On parlait strictement du niveau fédéral.
Oui, au niveau fédéral.
Et, on a fait un survol de l'histoire des élections, puis aussi des chefs.
Des chefs, oui.
Un des plus grands problèmes du Parti conservateur au Canada, selon nous, était leur chef. C'était soit quelqu'un qui n'avait pas vraiment de bonnes idées, comme je parle d'un Joe Clark ou d'un Robert Stanley.
Ouais.
Ou quelqu'un qui avait peut-être des bonnes idées, mais qui n'avait aucun charisme. Donc, c'était toujours très difficile pour le Parti conservateur de gagner les élections, mais comme je le disais dans mon article la semaine dernière dans Options politiques, c'est possible que ça change maintenant avec Harper. Stephen Harper avait vraiment 2 gros buts quand il a décidé de se lancer en politique. Il voulait, réunir la droite, et il l'a fait. Et deuxièmement, il voulait changer aux conservateurs le titre, le parti, je ne sais pas comment le dire en français, mais le Natural Governing Party.
Oui, oui.
On disait toujours que les libéraux étaient le parti naturel du gouvernement au Canada.
Oui, tout à fait.
Et Harper veut que ce soit le parti conservateur. Et c'est vraiment le premier chef du parti conservateur au Canada qui a eu ça comme but. Et si les choses continuent comme il se passe, ça se peut qu'il va atteindre ce but.
Oui, tout à fait. Puis, sachant que le Parlement canadien découle du Parlement anglais, de l'Angleterre, et l'Angleterre, on a quand même des racines de droite en Angleterre. C'est surprenant qu'au Canada, justement, on n'a jamais eu ce côté naturel vers la droite. Puis, ce qui est intéressant, justement, dans ce premier chapitre, vous avez parcouru, là, justement, cet historique, et j'ai bien apprécié le chapitre 3, c'est-à-dire le chapitre 2, à l'intérieur de la première partie, « It was the best of time, it was the worst of time », et là, vous faites référence à Brian Mulroney, et oui. Manning et Bouchard, donc c'est un peu aussi ce qui est triste, il y a eu des grandes choses qui ont été faites, surtout par le Parti conservateur, mais leurs chefs ont coulé assez souvent le mouvement de droite. Hein?
Oui, mais j'ai deux commentaires à cet égard. Premièrement, le mouvement droitiste ou de droite ou conservateur au Canada, comme les idées d'impôts réduits, un gouvernement plus petit, moins d'État. Ces idées ne sont pas toujours à l'intérieur du Parti conservateur, si on fait un survol de l'histoire. Par exemple, Sir Wilfrid Laurier était pro-libre-échange, il était pour un État assez petit. Donc, le mouvement de droite, économiquement parlant, parfois était dans le Parti libéral dans le passé. Donc, c'est difficile de faire une histoire du mouvement conservateur en parlant juste du Parti conservateur.
OK.
Deuxièmement, oui, les années 80, it was the best of times, it was the worst of times, effectivement, parce qu'il y avait une tellement grande opportunité dans les années 80. Le mouvement conservateur avait du succès tout partout au monde, hein. Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher en Angleterre, Helmut Kohl en Allemagne. Puis ensuite, on a élu Mulroney en 84 ici au Canada. Et c'était 9 ans au gouvernement pour Mulroney et c'était une histoire de plusieurs échecs et plusieurs succès.
Mm-hmm.
Mais quand on a fait le bilan de ces 9 ans, on a trouvé que c'était vraiment une grande opportunité manquée pour le mouvement conservateur. Parce qu'on n'a pas utilisé ces années pour bâtir un vrai mouvement de think tanks, de revues, d'activistes de droite pendant qu'on était au pouvoir. Et c'était une grande opportunité et c'est la raison pour laquelle, après que Mulroney a perdu le pouvoir en 93, qu'il n'y avait pas un mouvement pour ressusciter le parti ou donner un ressoufflement au parti. Et il faut absolument pas qu'on fasse cette même faute cette fois-ci. Et ce que je vois, c'est qu'on ne fait pas cette faute. Donc, j'ai beaucoup d'optimisme pour le futur parce qu'on est en train de bâtir un vrai mouvement au Canada maintenant.
OK, bon, donc si on fait un comparable, c'est un peu comme on vit au Québec actuellement. Beaucoup de gens voudraient que la droite, ou on va dire l'ADQ qui représente là, le centre-droite ou la droite, prenne le pouvoir, mais c'est comme si une fois arrivé au pouvoir, l'ADQ gaspille cette chance, cette opportunité et bousille là, comme ça son environnement politique et... Bon, c'est un peu ce qui est arrivé avec le Parti conservateur parce que un des chapitres, justement, vous avez marqué Making Up is Hard to Do, puis là, c'est Conservatism Waste Decade, puis là, on parle de 93 à 2003 où là, c'était carrément une hécatombe, là. Le Parti conservateur, et on se souviendra, Charest, on parle de 2-3 députés à ce moment-là, donc on a connu les bas-fonds d'un point de vue du conservateur.
Exactement. Puis votre point est excellent concernant l'ADQ parce que. Il est très important d'avoir un mouvement conservateur qui a du pouvoir, qui a de l'argent, qui a des fonds et qui est bien organisé, particulièrement quand un parti de droite ou de centre-droite est au pouvoir. Parce qu'il faut souvent faire rappeler à ces gens ce que c'est le conservatisme ou le libéralisme.
Ouais, c'est ça.
Les pensées de droite. Parce que quand on devient au pouvoir, c'est facile à oublier ça, puis à oublier qui vous a mis au pouvoir. Hein?
Oui.
Donc, c'est toujours important d'avoir des gens qui vous critiquent de la droite de votre parti. Puis c'est ça qu'on a manqué dans les années 80 avec Mulroney. Et si l'ADQ ou un parti de droite prenait le pouvoir au Québec, il n'y aurait personne qui attaquerait ou critiquait de la droite pour garder le parti plus à droite. Donc, effectivement, c'est très, très important de développer ce réseau en dehors des partis partisans politiques.
Oui, c'est un point important, ça, que les gens, des fois, oublient. parce que on le sait là, puis on l'histoire le démontre, que c'est pas nécessairement toujours l'appareil politique là qui sont les personnes les plus rigoureuses en termes justement de suivre les idéaux qui ont été mis de l'avant pour amener ce pouvoir là au sein de ces partis là. Ce qui est intéressant dans le livre, la deuxième partie, vous avez appelé ça The Plan, donc là vous y allez de solutions ou de plans pour aller justement bâtir ce chemin-là qui mène au pouvoir. Vous parlez d'investir dans les idées, toute la partie aussi d'engagement, des prochaines générations, les enjeux, les idéaux, c'est tout ça que vous discutez. Justement, est-ce que le plan, parce que là, comme tu le mentionnais, tu as écrit un papier, on se retrouve à être 5 ans plus tard, est-ce que le plan existe et bien suivi actuellement?
Je vous dirais oui, en gros, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est sûr. On a beaucoup plus de think tanks au Canada maintenant. Même au Québec, l'Institut économique de Montréal, je pense, commence à prendre beaucoup de place dans le débat public. Donc, au côté think tank, je pense qu'on fait très bien. On a l'Institut Fraser qui a même un bureau satellite à Montréal. On a la Ligue des contribuables canadiens, on a toutes sortes de think tanks. Où on est moins fort et où il faut mettre l'emphase et l'effort pendant les prochaines 5 années, c'est, je vais emprunter un terme de Preston Manning, qui est quelqu'un qui a mis beaucoup d'énergie dans cette cause, c'est qu'on a besoin de plus de do tanks. On a des think tanks, mais on n'a pas assez de do tanks.
Oui.
Et ce qu'il veut dire par ça, c'est les vrais activistes. Les gens qui vont vraiment pousser des idées de droite dans le débat public. On est très bien quant à développer ces idées. On peut écrire des belles dissertations, des belles livres, on peut avancer des idées dans des articles, mais il faut vraiment des gens sur le terrain pour mettre de la pression sur nos élus pour mettre de l'avant ces idées, pour assurer que ces idées soient mises en place en gouvernement. Et il faut aussi convaincre les gens des idées de droite. On n'a pas assez de gens qui, par exemple, fait avancer la cause d'un système de santé avec plus de place pour le privé.
Oui, oui.
On n'a pas vraiment un groupe qui a pour but de faire populariser ces idées. Donc, il faut mettre beaucoup plus d'emphase sur ça dans l'avenir.
Et justement, la responsabilité des médias à l'intérieur de ce processus de partage des idéaux, de les communiquer aux gens, aux électeurs, puis toi, je veux dire, tu es intimement, justement, impliqué dans l'écriture de chroniques, ainsi de suite. Comment tu vois la place des médias à l'intérieur de ce processus?
Mais c'est super important, mais il faut se rappeler qu'il y a vraiment deux types de personnes dans les médias. Il y a des chroniqueurs et des gens qui écrivent des chroniques d'opinion et des commentaires comme les André Pratt, les Alain Dubuc, etc. Ces gens-là, en moyenne, sont plus de droite. Je ne dirais pas qu'ils sont de droite, mais ils sont moins gauchistes que les gens qui sont des journalistes, des rapporteurs, les gens qui écrivent sur les nouvelles. C'est à ce niveau-là qu'on a les plus grands problèmes et il faut essayer, je ne sais pas comment on le ferait, mais il faut essayer de convaincre plus de gens qui tiennent à nos idéaux, à nos idées, de rentrer dans la profession journalistique. Parce que le problème, c'est les gens qui couvrent les nouvelles. Ce n'est pas les chroniqueurs ou les gens qui font du commentariat. Et ça, c'est un autre grand défi pour la droite.
Effectivement, parce que sinon, on tombe dans du journalisme, des fois, que moi, j'appelle d'opinion, parce qu'au lieu de rapporter les faits, on y va davantage, justement, de perception, et le côté émotif, des fois, l'emporte amplement. On le voit par la couverture et des rassemblements de droite, assez souvent, et on l'a vu aussi, et je pense que le Parti conservateur, je ne sais pas de quelle façon, actuellement, on veut gérer l'image, mais on le sait que ça a été très difficile au niveau de la dernière élection. Harper a eu de la difficulté un peu à bien s'amalgamer, on va dire comme ça, avec les médias, peut-être plus plus au Québec. Mais on sent que c'est difficile actuellement, justement, d'avoir une couverture, je dirais, juste et équitable un peu, justement, des propos qui sont avancés par la droite. Et je vois pas le moyen qu'on puisse, comment on peut s'en sortir. Est-ce que tu as l'impression que c'est simplement au Québec? Parce qu'on a fois l'impression que dans le Canada anglais, ils sont un peu mieux servis. Et on
Non? C'est peut-être un petit peu moins pire au Canada anglais, mais pas une grande différence.
Ah oui?
Les gens qui sont motivés à devenir journalistes sont des gens qui veulent... Les gens très idéalistiques, qui veulent changer le monde. Ils sont inspirés par des mouvements sociaux de gauche. C'est juste le type de personne qui aime faire ça pour leur vie, pour gagner leur vie.
Ouais, ouais.
Les gens de droite aiment plus, je vous dis très honnêtement, là, faire de l'argent. Donc, les gens de droite vont dans les autres professions, comme les affaires, par exemple, ou le droit.
Ouais, les droits, les lawyers. Les lawyers.
Oui, et puis c'est juste pas une profession qui attire les gens de droite.
Ouais, je
et
trouve.
Je ne sais pas comment on va changer ça, mais si on va changer ça, c'est à cause du fait qu'on va avoir des meilleures personnes dans le domaine.
Oui.
Je ne pense pas que c'est réaliste de penser que les gens vont changer d'idée parce qu'on a un lobby de droite qui met de la pression sur des journalistes de gauche. Il va falloir changer les personnes qui rapportent les nouvelles. C'est un projet très difficile et vraiment à long terme.
Oui, parce que à quelque part, sans cette équation, ou on va dire sans ce morceau de puzzle, on est un peu coincé parce qu'on a de la difficulté, je pense, à justement bien informer les gens qui, en bout de ligne, en bout de piste, vont faire des choix lors des élections, lors de prise de position. Et on sent qu'au Canada, surtout au Québec, les gens, je veux pas dire sont faciles à berner, mais du fait qu'ils ont une grande partie de l'information qui ne se rend pas à ces gens-là, on se choisit avec. On se retrouve des fois à faire des choix qui sont plus ou moins appropriés. Et justement, parlant des politiques et de l'orientation de la droite, parce que dans la troisième partie de votre livre, vous avez parlé justement de ces politiques-là, de quelle façon on peut les mettre en branle et quel genre de politique serait, bon, les visions à plus long terme. Vous avez parlé, je pense que vous avez un chapitre sur la famille. Donc, de façon d'adresser des politiques sociales.
Oui.
Justement, comment s'inscrit un peu la droite canadienne dans tout ça? Parce que des fois, on a l'impression qu'on ramène justement la droite à certaines valeurs, à certains choix qui sont en fait difficilement... comment je peux dire, par rapport aux human rights, des choses du genre, on a l'impression que la droite est toujours vue comme une tentacule qui veut en fait mettre des bâtons dans les roues par rapport aux malades, la veuve et l'orphelin. Donc, comment on peut justement inscrire des politiques là, qui sont envisageables pour la majorité des gens?
Mm-hmm. C'est un des plus grands défis pour le mouvement conservateur et le Parti conservateur, c'est certain. Ce qu'on a dit dans le livre, c'est que le Parti devrait prendre position qu'ils sont pro-famille, qu'ils sont pour des familles, puis ne pas définir ce qui constitue une famille et ce qui ne constitue pas une famille. Comme, ne dis pas que c'est un homme, puis une femme et deux enfants. Juste dis qu'on est pro-famille, puis on va mettre des politiques en place qui vont favoriser la création de familles. Parce que toutes les statistiques nous démontrent que quand les gens se rassemblent ensemble, puis quand les gens vivent ensemble, sous un toit ensemble, il y a moins de chances qu'ils vont demander des choses de l'État.
Oui.
Donc, selon moi, pour le long terme, la seule façon de garantir que le conservatisme va faire du progrès, c'est d'encourager des familles, puis mettre des politiques en place pour les encourager. Et c'est ce que Harper a fait. Vous vous souvenez du fait qu'il a essayé de rouvrir le débat sur le mariage gay tout au début de son mandat en 2006. Mais depuis ce temps-là, il ne l'a jamais mentionné. Et je pense que ce débat est fermé. Donc, je pense qu'il a beaucoup d'opportunités de faire du chemin sur le plan social et de changer l'image du parti sur le plan social. Mais c'est toujours difficile parce que, comme vous avez dit, les médias vont toujours dire « Ah, les gens de droite sont méchants, ils détestent les artistes, blablabla. » Bla, bla, bla. Donc, il faut juste repousser quand ces accusations sont faites parce que c'est souvent basé sur des faits erronés et des faussetés. Donc, il faut repousser quand les faits sont mauvais, puis travailler fort pour améliorer notre image. Et ça prend du temps, mais je pense que ça arrive très lentement.
Mais aussi, ici au Québec, là, dans les médias de gauche, quand on parle du mot famille qui sort de la bouche de Harper, là, aussitôt les réactions, puis ça, on a vu entre autres des gens du Devoir, là, ils disaient que c'était de. Ils voulaient ramener les mères à la maison, les sortir du travail et ramener les femmes à l'ère de Duplessis. Donc, il n'y a pas juste de parler de famille, mais il y a aussi de quelle façon qu'on va en parler pour qu'enfin ça passe. Parce que c'est, ouais. Il y a eu beaucoup de ça. Là. Juste quand Harper a parlé pendant la campagne électorale qui pourrait permettre de diviser les revenus entre les deux gens du même couple,
ouais.
C'est les premières réactions qu'on a eues. C'est dire, il veut ramener les femmes au foyer, puis tout ça. Donc, comment qu'on fait pour faire passer le message famille pour qu'il passe bien, justement, là, par le filtre des médias de gauche?
Ben, premièrement, je dois vous dire que je n'ai pas entendu cette réaction-là dans les médias anglais. Donc, ça c'est vraiment juste au Québec ou peut-être même juste le Devoir. Mais deuxièmement, il faut avoir quelqu'un qui réponde à toutes ces accusations. Puis on n'a pas. On n'a pas. Le Parti conservateur a mené une campagne désastreuse au Québec. Et il n'y avait personne qui répliquait à ces fausses accusations.
Cette personne-là du Devoir, là, justement, elle a dit ça à Radio-Canada alors que Tasha Carradine était à la même émission. On pourrait en parler à Tasha.
Je vais en parler à Tasha.
C'était José Boileau qu'elle s'appelle, la dame du Devoir.
Okay. Ça t'a marqué, Danny? T'as la mémoire?
Ben, je trouve que quand... Tu sais, c'est rendu que t'es incapable de prononcer le mot famille au Québec, là, c'est rendu grave, là, tu sais. Alors que dans la population, ça porte ce message-là, mais les élites médiatiques, eux, non, ça ils le prennent autrement.
Oui. Puis ça, c'est un autre problème qui est vraiment... Je viens du Canada anglais. Moi, je suis né à Toronto, j'ai agrandi à Toronto, mais je vis au Québec depuis 7 ans, puis j'ai fait mon bac à l'Université Laval. Donc, je connais les deux très bien. Mm-hmm. Et je vois qu'au Québec, il y a beaucoup plus de déférence, il y a beaucoup plus de... Je ne sais pas si je dirais respect, mais les gens écoutent plus l'élite de la société au Québec qu'ailleurs au Canada et en Amérique du Nord au complet, je vous dirais. Okay. Les gens donnent beaucoup d'appui aux opinions de l'élite de la société. Donc, je ramène ça au point avec le Devoir puis la famille. C'est ultra important au Québec d'avoir des gens qui répliquent à ces types d'accusations fausses. Parce que les gens écoutent ce que ces gens disent. Ils veulent l'écouter, puis ils croient en ce que ces gens disent.
Ah oui.
Donc, c'est très important, particulièrement chez nous ici, pour répondre à ces mensonges.
Mais justement, et là, on va faire le lien avec le papier que tu viens d'écrire tout récemment, justement, qui est Rescuing Canada's Rights 5 Years Later. Est-ce que le constat est favorable? Est-ce qu'on est sur une pente ascendante ou descendante? Parce que des fois, on a l'impression, et surtout avec les gouvernements minoritaires qu'on a connus, là, on se considère quand même mieux nantis par rapport au fait que les conservateurs soient majoritaires, mais beaucoup de gens qui remettent en question le pourcentage d'électeurs, donc on le sait, hein, l'opposition parle toujours d'une coalition. Est-ce que le mouvement est vraiment plus fort ou on a stagné plutôt dans les dernières années?
Oh, c'est sûr que c'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort au sens du parti. Et on est en majorité maintenant à Ottawa. C'est beaucoup plus fort en termes du mouvement. Il y a plus de think tanks, il y a plus d'argent. Ouais. La chaîne de journaux Canoë, c'est le Sun au Canada anglais. Journal de Montréal, Journal de Québec, Toronto Sun, Calgary Sun, c'est très fort et c'est à droite. Maintenant, il y a une station de nouvelles au Canada anglais, Sun News, qui est plus à droite. Le mouvement est en bonne santé, mais il y a beaucoup plus de travail à faire. Au parti, ça reste à savoir. Oui, la machine électorale est forte. Effectivement, on a juste gagné un gouvernement majoritaire, puis avant ça, deux gouvernements minoritaires.
Ouais.
Mais les politiques du parti, ça reste à savoir s'ils vont être des vrais conservateurs de droite ou juste au centre. Harper a un problème quant à ses dépenses. La taille du gouvernement continue à grandir. Chaque année, je pense qu'en moyenne, il dépense 6 ou 7 % de plus d'année à année. Donc, il faut que ça change. Et les conservateurs, avec un petit C, les gens vraiment de droite ont été très patients pendant les années minoritaires. Parce que Harper disait toujours... C'est à cause du fait qu'on est en minorité, il faut faire des compromis, il faut faire des coalitions sur chaque vote, blablabla. mais les gens sont tannés de ça. Puis maintenant qu'on a une majorité, il n'y a aucune excuse pour réduire les dépenses de l'État puis réduire la taille de l'État. Donc, ça va être le grand test pour les quatre prochaines années pour voir si Harper va faire ça ou non.
Et pourtant, oui, parce que ça pourrait être un gage de réussite, parce que en plus de satisfaire justement les purs de durs de la droite, on pourrait aussi amener beaucoup d'économies dans les poches des Canadiens et dégager des bonnes marges, parce que le Parti conservateur a quand même marqué des points quand il a baissé justement les points de TPS, mais on sent que depuis ce temps, il y a pas grand-chose, il n'y a pas grandes politiques qui ont été mises de l'avant justement pour réduire la taille du gouvernement. Comment est perçue justement cette aile un peu plus, alors je veux pas dire radicale, mais on sait que des Maxime Bernier font la promotion justement d'un État beaucoup plus petit. Comment c'est perçu, est-ce que ces gens-là sont derrière Harper quand tu fais l'analyse là de justement de ce 5 ans de passage du Parti conservateur?
Quel genre?
Ben, des Maxime Bernier qui prônent le moins d'État, ces gens-là, est-ce qu'ils sont satisfaits à l'intérieur?
Oui, je pense qu'ils sont assez satisfaits, mais ils ont accepté les excuses du gouvernement que c'était à cause du fait qu'ils étaient dans une situation minoritaire. Et également, la crise économique de 2008 et 2009 ouais. a changé les choses, puis il fallait dépenser de l'argent pour créer des emplois, donc... C'était une grande partie pour les dépenses augmentées
oui, tout à fait.
Des trois dernières années. Donc, les gens ont accepté ça, puis ils espèrent pour de mieux dans le futur. Donc, il faut vraiment attendre puis voir. Les deux ou trois prochaines années seront très, très importantes.
Donc, c'est des années charnières, selon toi, et ça, en bon québécois, on dit ça passe ou ça casse, mais ça pourrait soit faire évoluer davantage la droite.
Oui, et ce que j'allais dire, c'est que Tony Clement, qui est le président du Conseil du Trésor, a déjà annoncé que pendant la prochaine année, il va couper 4 milliards de dollars. Et ça sonne comme un grand chiffre, mais c'est pas vraiment, si on considère que le budget annuel du Canada est comme 350 milliards ou quelque chose,
ben oui.
environ ça. Mais ce qui est important dans cette situation, c'est où va-t-il faire les coupures? Est-ce qu'il va juste mettre à pied des fonctionnaires ou va-t-il éliminer des programmes en entier? Et c'est le deuxième qui est très important si on veut avancer le conservatisme au pays.
Okay.
Parce que dans la situation minoritaire, ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait les budgets à zéro ou à 5 $ par année, par exemple, mais il gardait le programme. Il n'a pas... tuer la loi qui créait un programme, la législation qui créait un programme. Et pour faire du progrès pour le long terme, il faut vraiment éliminer des programmes puis éliminer des lois
oui.
qui créent ces programmes. Parce que sinon, quand les libéraux reviennent au pouvoir, et ça va arriver un jour, ils vont juste remettre tout ce qu'on a enlevé.
OK. Oui, ben je comprends. Il faut en fait pas aller en surface, mais vraiment aller profondément et sabrer et abolir complètement ces programmes-là.
Exactement.
Oui, tout à fait. Comment, et en conclusion, là, comment est-ce qu'on pourrait analyser là, ce qui s'est passé au Québec? Parce que la droite pourrait se porter mieux. On est d'accord au Canada si la droite aurait emboîté le pas. C'est quoi ta lecture du Québec? Parce que là, sans dire que le Québec a mêlé les cartes, mais je pense qu'on a été des troublefêtes, des troublemakers. On aurait pu donner vraiment une carte blanche à Harper. Donc, comment tu analyses là ce qui s'est passé sur la scène provinciale au Québec?
Ben, selon moi, c'est super facile d'analyser ce qui s'est passé. C'est que tous les votes du Bloc ont simplement transféré à une autre partie. Le Bloc québécois, c'est maintenant le NPD. Puis je pense qu'il y a un problème d'image pour Harper au Québec.
Oui.
Je pense que les gens ne trouvaient pas Harper sympathique. Les médias le démonisaient de chaque jour.
Oui.
Gilles Duceppe était fatigant, puis il a mené une campagne désastreuse. Ignatius, ben, il n'était jamais dans le jeu. Il n'a jamais vraiment trouvé sa voie au Québec.
Oui, oui.
Puis la seule option qui restait, c'était Jack. Puis j'ai vu tellement d'entrevues avec des gens après les élections. Ils sont réveillés le 3 mai, puis ils ont vu leurs journaux, puis ils ont dit oh, on a fait ça.
Ouais.
ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient, puis ils votaient juste pour Jack. Ils connaissaient même pas leur candidat dans leur comté. Ils votaient pour Jack parce que c'était la moins pire des quatre options. Donc, selon moi, ce n'est pas un changement permanent. Je pense qu'il va avoir beaucoup de difficultés la prochaine fois parce qu'il y a un caucus très jeune, très divers, avec des gens qui sont, il faut le dire, pas nécessairement le mieux qualifiés pour être
député
à Ottawa. Donc, je pense qu'il y a une grande opportunité la prochaine fois pour les conservateurs, mais il va falloir mettre beaucoup de travail et beaucoup de temps au Québec.
Donc,
Harper doit refaire son image au Québec et c'est pas facile.
C'est ça. Donc, il y a 4 ans pour le faire et il faut qu'il continue à marquer des points. Même si il n'y a pas de députés, beaucoup de députés au Québec, il doit souligner et soigner cette image. Justement, en parlant d'image, je crois que quand on regarde le bilan, oui, somme toute, ça semble être favorable, mais on se pose toujours la question si, justement, dans un avenir prochain, on va avoir une émergence de plusieurs partis de droite, parce qu'on le sait, donc, en Alberta, on a le Wild Rose Alliance là, qui voit le jour. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir surgir une droite extrême sur l'échiquier, justement des dissidents du Parti conservateur et d'autres mouvements qui pourraient emboîter le pas? Parce qu'on sent que les mouvements que tu parlais tantôt, les think tanks, ne se mêlent pas. Ils sont apolitiques assez souvent, mais on sent que, je vais référer ici au Québec, le réseau Liberté Québec, qui prend des fois des positions un peu plus fermes que l'ADQ. Est-ce que ces gens-là, et on entend parler de la coalition, malgré que la coalition pour l'avenir du Québec mêle un peu toutes les cartes, mais est-ce qu'on peut s'attendre à avoir plusieurs partis de droite dans le futur?
Pas au fédéral, non.
Pas au fédéral.
Je pense que, premièrement, Harper est reconnu comme un de nous, des gens du monde des think tanks et tout ça, parce que Harper était au National Citizens Coalition avant qu'il était en politique.
Oui, oui.
Il était un groupe de lobby de droite. Mais deuxièmement, je pense que c'est beaucoup plus simple que ça, c'est que la leçon des années 90, de ce qu'on appelait dans le livre « The Lost Decade », entre 93 et 2003, la grande leçon, c'est que quand on n'est pas content avec ce qui arrive dans notre parti politique, la solution n'est pas de commencer un autre parti politique. Parce que quand on commence à diviser les votes, c'est fini. Puis les libéraux ont gagné 3 majorités consécutives parce qu'on avait une droite divisée. Donc la leçon, si on n'est pas content, c'est de changer les choses à l'intérieur au sein de notre parti. Ce n'est pas de commencer un autre parti.
OK. Donc c'est valable aussi pour ce qui se passe présentement au Québec. Parce que...
Oui, je serais très, très triste si on a 2 ou même 3 partis de droite au Québec lors des prochaines élections provinciales.
Ouais.
Parce que ça s'assurerait que soit le PQ ou le PLQ gagnent les élections encore.
Ouais, tout à fait.
Donc tout le monde doit travailler ensemble, puis j'espère que ça arrive. Parce que sinon, on a beaucoup de troubles.
Donc, ça veut dire qu'on est peut-être à l'approche de cette fusion confirmée entre Legault et l'ADQ et on assistera peut-être à une droite qui prendra plus un axe de gauche, mais c'est toujours un peu difficile actuellement dans le contexte actuel parce que les gens de droite se sentent brimés un peu avec la fusion qui est présentement dans les nuages. Là.
Oui. Je suis l'histoire de très proche, puis je ne suis pas très impressionné avec M. Legault, je dois le dire. Je trouve que ses idées sont un peu, en anglais, on dirait « vacuous ». Je ne sais pas si c'est un mot en français, « vacueuse ». Je ne sais pas comment on le dit, mais il n'y a pas vraiment de nouvelles idées. Et les idées qui sortent sont pas vraiment nouvelles. Hein. C'est un recyclage d'anciennes idées, selon moi. Mais
de gauche.
On verra où ça mène. S'il y a une fusion, ben tant mieux. On va travailler avec ça, mais selon moi, l'ADQ en ce moment a les bonnes idées pour le Québec. C'est le seul parti qui dit les choses comme ils sont et qui a les bonnes solutions pour les problèmes au Québec. Donc, on verra où ça va, mais c'est sûr qu'il ne faut pas avoir 2 partis de centre-droite pour les prochaines élections. Ce serait désastreux.
Ben, merci beaucoup, Adam. Puis, est-ce qu'il y a un prochain livre? Est-ce qu'il y a quelque chose en écriture actuellement ou...
Pas actuellement, mais moi et Tasha sont en train de mettre ensemble une proposition pour un autre livre.
OK.
Ça serait dans le même voie, peut-être une expansion de l'article que je viens d'écrire dans Options politiques.
OK.
Donc, je vous tiendrai au courant.
Ben oui, tout à fait.
Oui, parce que ça prend un roadmap pour le Québec.
Ouais.
Oui, puis il y aura une section beaucoup plus grande sur le Québec.
Okay. Super. Ben, c'est bien. On invite d'ailleurs les gens à consulter là, le papier que tu viens d'écrire sur options politiques. Donc, si les gens tapent ces mots sur Google, ils vont tomber sur l'adresse du site Internet.
Oui, puis c'est irpp.org.
OK, c'est vrai. Bon, ben merci. Et ben, je te souhaite une belle été et on espère justement être au courant de votre prochain livre.
Vous aussi. Bon été. Merci.
Merci. Au revoir.
Bye. Au revoir.
Donc, c'était Adam J. Falla, qui justement co-auteur de ce livre avec Tasha. Hein? Mm-hmm. La belle Tasha! Non, mais elle est très jolie. Mm-hmm. Et c'est le fun parce qu'on est bien représentés dans la droite. Hein? Mm-hmm. Par rapport aux femmes, là, c'est impressionnant de voir Daniel Smith. Mm-hmm. C'est des gens qui ont du charisme, qui ont de la prestance. Puis on n'attache pas vraiment d'importance à l'aspect physique, mais quand tu
ça ajoute.
Oui, tu portes bien tes idées... Ça ajoute. Mmh. On va faire une petite pause rapidement parce que de l'autre côté, on va avoir la chronique Kirion en discute. Donc, vous êtes à l'antenne du XM156 et du www.radioshoc.fm. On se retrouve de l'autre côté. On est de retour pour cette dernière émission de la saison de Connaître la suite. En passant, on remercie tous ceux qui nous ont envoyé le commentaire tout au long de la saison. Et on vous invite d'ailleurs à le faire encore. Ça se termine pas ce soir pour nous. On va continuer à comptabiliser vos commentaires, à vous répondre. Et puis, si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, écrivez-nous, là, c'est bien simple. info@connaitrelasuite.com. Et le site Internet va être encore là cet été. Vous pourrez écouter les podcasts, toutes les émissions que vous avez manquées, c'est sûr et certain. Et pour les abonnés du XM156 qui nous écoutent ce soir en direct, en fait, en ce 17 juin, ben vous pourrez nous entendre en reprise tout l'été. Et moi et Danny, on va faire une sélection des best-of, excusez l'anglicisme, mais on va choisir les meilleures émissions. On fera pas les meilleurs moments, donc on va passer les émissions de façon intégrale.
Oui, oui.
Et par contre, c'est ça, je vous invite d'ailleurs à nous envoyer un courriel info@connaitrelasuite.com ou sur notre tweet ou sur notre page Facebook. Donnez-nous vos suggestions, là, les émissions que vous avez appréciées. D'ailleurs, c'est Julie Thibault qui m'a envoyé sa suggestion par rapport à l'entretien qu'on a fait avec Joanne et Denis Julien, qui étaient venus nous parler du making of, yes, L'illusion tranquille. Et d'ailleurs, on avait fait un extra sur Internet d'une heure. Okay. Donc, ça a duré 3 heures. Pour ceux qui ont manqué 7 heures de plus, ben vous pouvez encore là venir l'écouter. Tout ça est disponible dans nos archives. Donc, ne paniquez pas si vous avez manqué des émissions ou quelques minutes même ce soir, parce que j'ai vu que les gens se sont joints. Donc, en cours d'émission, ben n'hésitez pas à venir télécharger l'émission. Donc, ce soir, dernière chronique de cette saison de Kyrion en discute.
Voilà.
On passe ça, c'est ce que tu vas me dire.
Exact. Manon.
Tout est en place pour que je puisse parler de n'importe quel sujet et régler tous les problèmes de la Terre en quelques minutes. J'ai pas peur, moi! Hein?
Wow!
Wow! Hey!
Hey! Je l'ai pas eu. D'habitude, je l'ai chez nous.
Hey!
Pour ma dernière chronique, j'ai décidé de penser à l'été. Donc, j'avais prévu quelque chose d'autre, là, mais j'ai eu des petits pépins avant l'émission, dont un meeting non prévu, de la chenoute. Donc, je remercie celle qui a callé un meeting à la dernière minute. Et j'ai pensé à vous faire une chronique, puis je me suis fait voler mon idée. J'étais en tabarouette, j'ai vu ça passer sur Twitter.
Ouais.
J'ai décidé de faire une chronique livre.
Ben oui!
Donc, c'est pas vrai que la droite n'a pas de culture.
Et là, t'es arrivé pour le bénéfice de nos auditeurs avec un livre rempli. Un sac, en fait, qui est rempli de livres.
Écoutez ça.
Ouh!
Tiens!
Ça fait mal.
Enlevez-vous, enveloppe.
En plus, c'est dans un green.
Ouais,
Green's bags.
Yes! Donc, j'ai amené différentes suggestions de livres, mais là, je suis pas très roman, OK? J'en ai lu quelques-uns dans ma vie, mais je trippe pas roman vraiment, là. Donc, c'est plus des livres qui peuvent être utiles. Puis, c'est pas les livres comme. C'est quoi le livre, là? Le miracle ou je sais pas trop quoi, là?
Ouais.
T'en tout ce que tu veux, non, là, juste en y pensant.
C'est pas des best-sellers.
Ouais. Puis, quand longtemps je serais millionnaire.
J'ouvre une petite parenthèse, mais tout au long de la saison, tu m'as surpris. À chaque fois, tu te dis, ah oui, je lis ce livre-là à la maison.
Ah oui, j'en ai.
Sérieusement, là, c'est... Puis là, je confirme, les auditeurs ne voient pas ton sac, mais t'es quelqu'un de cultivé.
Ouais. Donc là, je vais les suggérer.
Ah oui.
Mais j'irai pas très loin là, dans la description parce que j'ai d'autres choses dans ma chronique. C'est pour ça qu'on va regarder ça rapidement. OK? Donc, juste montrer la preuve que j'ai vraiment acheté le livre de Monique Jérôme Forget avec son mari Claude qui disait dans ce livre-là qu'il faut rentrer le privé dans la santé. Ça, c'était avant qu'elle embarque au Parti libéral pour être élue en 2003. Ben, son livre, il s'appelle « Qui est maître à bord? Projet de réforme du système de santé canadien ». OK, donc ça, en librairie, va être très difficile à trouver. OK, mais moi, je l'avais collé par, je sais pas trop, là.
Les internets.
J'ai encore la facture ici, là. Je vais peut-être checker où est-ce que je l'ai acheté. McGill's Queen University Press. Donc, ça existe encore, vous pouvez l'acheter. Donc, moi, j'avais su par Bouchard en parle, qui avait sorti ça. Elle avait sorti un livre qui parle de privé. Donc, j'ai dit, ah, ouais, je veux lire ça. Moi. Donc, ça peut être une lecture intéressante pour les tripeux d'économie gouvernementale. Donc, qui est maître à bord? Ça reste ce livre-là.
Who is the master aboard?
The master of the board. Ensuite, une des vedettes du mouvement qui pense comme nous un petit peu, le livre de Nathalie Legrabli.
Oui.
Excellent livre. La face cachée des politiques publiques. Donc ça, c'est très excellent. Tu sais, on lit, elle fait un article à tous les jeudis, puis on en voudrait encore, puis encore, puis encore. Là. Ce livre-là est excellent, donc vous pouvez lire ça, La face cachée des politiques publiques.
Je l'ai commandé.
Oui?
Oui.
Bonne idée. C'est une très bonne idée.
Ouais.
Ensuite, un gars qu'on aime tous entendre aussi, à la radio, surtout quand il vient ici avec Jeff Fillion, entre autres. C'est le livre de Régent Breton,
oui. Hein,
qui a aussi été coécrit par Brigitte Pellerin, qui est maintenant rendue à Sun News. Je ne sais pas s'il y a encore, mais en tout cas, au début de Sun News, TV était là.
Je pense que
donc, le national syndicalisme. C'est un livre qui est... Mettons que le titre est assez coup de poing. Mettons, là, quand tu
mettons
dis,
que c'est pas le genre de livre qui traîne sur le bureau d'un représentant syndical.
Non, vraiment pas. Donc, on vous explique toutes sortes d'affaires, là, entre autres, là, parce que lui, il est avocat en droit du travail, quelque chose comme ça, en plus d'être professeur. Et il explique, entre autres, que essayez de mettre un délégué syndical dehors.
Oui.
Il va vous expliquer toutes les clauses qu'il peut utiliser pour pas que ça marche.
Oui.
Donc, c'est assez incroyable.
Oui, parce qu'en plus, le code du travail, comme on sait, là, est une partie prenante des débats qu'on peut avoir par rapport au syndicalisme au Québec.
Exact. Puis la manière que ça marche, là, vous allez voir que les délégués syndicaux sont très protégés par le Code du travail, justement. Ouais. Donc, c'est dans la loi. Aussi, un livre, j'ai amené quelques livres d'université, là, parce que j'ai commencé un certificat au HEC de Montréal, mais je ne l'ai pas terminé parce que je suis revenu à Québec. J'ai fait 7 cours d'un certificat en leadership et politique. Donc, j'avais commencé ça, il me manquait 3 cours pour le finir. Puis il y avait un livre qui s'appelait « Le changement ». Donc, connaître la suite, le changement.
Oui.
Donc, préface par Michel Bond.
OK.
Et c'est une revue de Harvard Business Review.
Ah.
Donc, ça, probablement qu'à la librairie de l'Université Laval, là.
Ça doit exister, ça.
Donc, ça, c'est pour ceux, dans le fond, qui sont peut-être patrons, là, et tout ça, puis qui veulent en savoir un peu plus, là. Donc, c'est différents articles de chercheurs. Pas tous de Harvard, de mémoire, là. Mais entre autres, il y en a un qui c'est John P. Cotter. Puis j'en ai parlé de sa théorie des 8 étapes de changement qui fonctionne. Oui. Là. Donc, pour amener un changement dans un...
Et ça, d'ailleurs, si on est de retour, et là, on ne veut pas titiller les gens avec ça, là, le si, mais je pense qu'il faudrait avoir une émission spéciale sur le changement.
Ouais.
Parce qu'on parle beaucoup de changement, mais comment on orchestre le changement? Un changement massif, tu sais, quand c'est un changement qui interpelle une population de 6 millions d'habitants, c'est pas la même chose qu'un changement au sein d'une structure de 10 personnes.
Exact. Un livre que tu connais très bien.
Oui.
Monsieur Martineau, il a suivi plein de cours de
Brian Covey.
Stephen Covey. Donc, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, c'est intéressant. Puis moi, en plus, j'avais acheté le livre, puis j'avais eu le droit à la version audio d'une conférence de Monsieur Covey. Mmh. Donc, j'ai écouté ça il y a 2-3 mois en faisant Montréal-Québec. Là, ça se faisait super bien, sa conférence.
Oui.
Donc, si on vous explique, là, dans le fond, lui, il a regroupé, ce qu'il dit, il a regroupé les habitudes de vie des gens les plus puissants dans la planète.
Les plus efficaces.
Ouais, puis il a fait un schéma de ça, puis il s'est rendu compte que c'était 7 habitudes. Puis depuis que ce gars-là a écrit ça, là, remarquez là, dans les médias, là, les top 10 pour devenir millionnaire, les top 10 pour changer sa vie, là, ça l'a influencé toute l'écriture par la suite, parce que tout le monde se dit, je vais faire un top 10.
Et maintenant, c'est les 8 habitudes. Hein? Un nouveau livre. Oui, c'est les 8. Ça rend à 8. Il a trouvé une 8e.
Lui, il a compris comment faire de l'argent à tabarouette. Donc, il est millionnaire quelquefois. Il a conseillé certains présidents américains, entre autres. Donc, c'est pas un tweet.
Ben, c'est sûr que c'est une machine à faire un peu d'argent.
Cash.
Mais,
Ça, c'est. Ah, excellent.
Hein? Ça, je recommande à tout le monde, sérieusement.
C'est ça. Le livre s'appelle « Le but, l'excellence en production ». OK? C'est un auteur israélien de mémoire là, qui s'appelle Eliyahu M. Goldratt et Jeff Cox. Ils ont décidé de parler des Kaizen, donc du modèle Toyota, mais d'en faire un roman.
Oui, c'est très bien romancé, ça se lit très bien.
C'est ça. Donc, en le faisant comme ça, tu veux tellement savoir comment le gars a fait pour solutionner tous les problèmes de son usine. Oui,
parce qu'en fait, c'est quoi? Il y a une semaine où il y a très peu de temps pour sauver son usine. C'est incroyable.
Exact. Donc, ça peut vous expliquer, là, ça, c'est moins théorique, c'est plus romancé. Oh, le gars, il dit, tu le vois, là, un matin, il se lève, il ne sait plus quoi faire parce qu'il est découragé de toute la tâche qu'il a à faire dans son usine. Pis ça. Donc, ils l'ont romancé pour rendre ça plus accessible. Très bonne lecture aussi. J'ai fait quelques chroniques entrepreneuriales cette fois-ci. Très bon livre de Jean-Benoît Nadeau, « Le guide du travailleur autonome ». Donc, un très bon livre. « Tout savoir pour faire carrière chez soi ». Donc, exemple, là, il va vous parler « Comment je vais charger de l'heure, moi, là? Je vaux combien, moi, là? » Puis les désavantages de charger pas assez cher là, dans un contrat quand t'es travailleur autonome, là, tu fais « Ah, OK, t'es du cheap labor, tu charges pas cher par rapport à l'autre, tu sais, tout ça. » Toutes sortes de trucs, tout ça. Donc lui, il s'est cassé la tête quand il est devenu travailleur autonome. Puis lui, c'est un journaliste pigiste. Donc c'est dans ce sens-là que lui, il est travailleur autonome. Il a décidé d'en faire un livre
c'est bien.
Là-dessus. Ensuite, ça, tu vas aimer ça. « Comment bâtir un réseau de contacts solide?
Oh yes!
Très bon livre là, de Transcontinental.
Je pense que j'ai déjà des bonnes bases, mais peut-être d'aller confirmer, bon. Ça serait peut-être bon.
Ouais, puis il y en a deux, il y a deux livres, il y a une suite. Je ne sais pas si vous avez amené la suite, mais en tout cas, j'ai les deux. Là. Donc, c'est écrit par Joanne Tremblay et Lise Cardinal. Donc, comment bâtir un réseau de contacts solides, très pratique. Ça, moi, c'est quand j'étais opéré en 2008, là, c'est ça que j'ai lu pendant ma convalescence. Je ne pouvais pas rien faire de ma peau, à part d'écouter la TV, là, c'est ça que je faisais. Ensuite, il y a un livre. Si jamais j'ai l'impact que ce gars-là a, là, dans ma chronique lecture, vous allez capoter. Okay? Y a un gars aux États-Unis très populaire qui s'appelle Glenn Beck de Fox News. Okay? Et lui, il est un peu comme Oprah. S'il suggère un livre, dans les jours suivants, c'est un best-seller. Okay? Immédiatement. Et lui, il a commencé à faire de l'éducation un peu au monde parce que, bon, il y a un petit côté où est-ce qu'il veut éviter que les États-Unis se retournent vers le socialisme et tout ça. Il dit que c'est contre ce que les pères fondateurs des États-Unis ont voulu faire. Ouais. En fond, là-bas, c'est le free et tout ça. Et il a conseillé un livre qui date de 1939, je pense, de Friedrich Hayek, qui s'appelle « La route de la servitude ». Donc, ce livre-là, aussitôt que Glenn Beck a conseillé ce livre-là.
C'est ce livre-là que tu me parlais cette semaine, je pense, hein? C'est là-dessus?
De quoi qu'on parlait, non?
Je sais pas, mais Sam, on s'est échangé par rapport à ce livre-là.
Non, c'était pas lui.
Ou t'as tweeté là-dessus, je sais pas.
Ouais, non, c'était pas lui. Et ça, si vous l'achetez, là, il est très difficile à trouver en bibliothèque. On est une province gauchiste, là, puis ça, c'est un livre qui parle de droite beaucoup. Moi, j'ai toujours de le commander, et il y a une version, là, je sais pas si l'édition PUF, là, mais l'écriture est tellement petite là, que ça en est difficile. Donc, okay. Moi, j'approche la quarantaine, là, donc je suis sur le bord, j'ai besoin de lunettes. Donc, l'écriture est très petite. Là, donc, peut-être trouver une autre version dans une autre... Un autre format. Pour que la calligraphie soit plus forte.
Peut-être des fois, ça existe en version électronique sur un iPad.
Oui, peut-être, ça se pourrait. Ensuite, un livre, ça c'est un livre académique, mais très intéressant. Puis si on est de retour, je vais essayer d'avoir le professeur qui m'a donné ce cours-là. C'est un livre sur la politique, mais la politique en entreprise. Mais ça s'applique aussi pour la politique plus tard. Donc, « Power, Politics and Organizational Change, Winning the Turf Game » de Dave Buchanan et Richard Batman. Donc ça, quand j'ai suivi ce cours-là au HEC, je capotais. Là, on apprenait des trucs pour être un petit peu crosseur. Puis moi, je suis très intègre. J'étais là, faut-tu que j'apprenne ça, moi, là? C'est un petit peu contre mes principes. Mais ça fait réfléchir en tavernette, ah ouais. C'est sûr et certain. Un livre qui a fait un monstre de moi quand que j'ai eu ça en cadeau de ma dernière blonde. Il ne faut pas toujours croire les journalistes.
Oh.
J'ai eu ce livre-là en 2005 et ça a créé un monstre. Déjà que j'étais... Si ma blonde m'a acheté ce livre-là à l'époque, c'est parce qu'elle disait « Crime... »
T'avais une fibre.
T'as une fibre, là, avec tout ce que je lui racontais, puis tout ça. Puis elle a écrit dans la dédicace qu'elle a dit « Pour un futur animateur de radio, il faudrait continuer à développer cette habileté. » Elle a dit ça en 2005. Je faisais pas de radio pendant tout, puis j'avais aucun projet de radio. Enfin, moi, dédicacer ça. Et peut-être deux qui restent. L'intelligence émotionnelle.
Oh oui, ça, oui.
C'est mon livre. Il y a plusieurs livres là-dessus. Par contre, je ne sais pas si j'ai le meilleur, là, mais Daniel Goldman. Donc, Goldman. Comment transformer ses émotions en intelligence. Donc ça, quand j'aurai fini, je l'envoie à Régis Labeaume. Et finalement, comme dernier livre que je vous suggère, mais lui, ça n'a aucunement rapport avec le reste. Là.
Le survenant.
Non. C'est un petit livre qui fait du bien, qui se lit super vite, puis que la conclusion a une très bonne morale. C'est le livre « L'alchimiste » de Paul Coelho.
Ah.
Je sais pas si je le prononce comme faux. Un petit livre qui se lit bien, bien, bien tout seul. Donc, là, c'est quelqu'un qui est un peu à la recherche du bonheur et tout ça. Je vous conterai pas la fin, là, mais ça a l'air intéressant. Puis moi, le dernier livre que je vais lire cet été, que j'ai acheté dernièrement, c'est un livre qui s'appelle « Pas dans mon assiette. Manger est-il devenu un risque? » Donc, c'est un spécialiste en sciences alimentaires, là, comme moi, qui a écrit ça. Il s'appelle Sylvain Charlebois. On le voit souvent à RDI, ce
gars. Oui, oui, oui.
Commenter ça. Ça va être ma lecture, entre autres, cet été. Donc, ça, c'est la première affaire. Hey, il faut faire un lien vers l'autre chronique, donc on va y aller rapidement. OK? L'autre affaire, qu'est-ce qui est bon l'été? Qu'est-ce qu'on aime faire? Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais quand il commence à faire chaud, j'ai une vague de classic rock.
Ah oui?
Ouais. Là, je commence à recommencer à triper sur Sweet Home Alabama ou du Boston ou des choses comme ça. Et en fin de semaine, mon frère, il est arrivé avec un DVD extraordinaire. Puis je vous le suggère. Et c'est incroyable le lien. Hein, j'en revenais pas. Il a acheté ça samedi passé.
Ah oui?
C'est une série qui s'appelle Classic Albums. Et moi, mon frère avait déjà acheté Classic Albums. C'est, ils s'en vont en studio puis ils vont revoir comment ils ont fait les albums. Donc, moi, il avait acheté l'album, il avait analysé l'album Hysteria de Def Leppard.
Oui, je me souviens avoir vu ça, un topo là-dessus à Musique Plus, quelque chose comme ça.
C'est incroyable. De là, voir, là, moi, j'étais. C'était mon album préféré.
Ils mettent juste des tracks, puis la voix, puis la guide, puis là, ils expliquent tout pour chaque.
C'est incroyable. Vraiment, là.
J'en ai des frissons à le dire.
Ouais, c'est vraiment bon. Et là, lui, il est arrivé avec le classique album Rush, du groupe Rush. Et là, ils ont décidé d'analyser deux albums. L'album 2112 et l'autre, c'est Moving Pictures, je me souviens bien. Il n'est même pas écrit, ça va bien? Est-ce écrit là? Moving Pictures, exactement. Okay. Et là, il met ça dans le DVD. Je vais écouter ça. Et je savais déjà que les gars de Rush, il y avait un petit côté libertarien. Mais là, c'est vraiment confirmé dans la vidéo que c'est le cas. Okay?
C'est affirmé et confirmé.
C'est affirmé et confirmé. Et il en parle, on sait que les musiques sont surtout écrites par Geddy Lee et l'autre guitariste, comment il s'appelle, Geddy Lee, puis Alex Lifeson, ça se peut-tu que j'oublie ça, ça n'a aucun sens, mais que les paroles sont écrites par le batteur, qui est Neil Peart. Et Neil Peart, il raconte un peu pourquoi il fait des textes surtout libertariens, et il explique dans ce DVD-là comment il a écrit 2112. Okay? Entre autres, il dit que pendant qu'il était à Los Angeles pour les albums précédents, il a vu un graffiti qui disait « Freedom isn't free ». Et que ça l'avait fait beaucoup réfléchir. Et lui, dans le fond, il a eu beaucoup d'influence sur les deux membres du groupe pour les amener, eux aussi, à penser comme un libertarien de ce côté-là. Et lui, il avait comme philosophie que dans la vie, là, t'as rien de gratis. Puis il disait que des groupes amis, d'autres groupes de rock amis, il ne mettait pas les efforts pour qu'ils réussissent finalement. Il pensait que le succès leur viendrait tout seul. Alors que dans le trio de Rush, il disait ça n'arrivera pas par hasard, il faut travailler fort. Puis tout ça. Donc, il y avait vraiment les vertus de savoir qu'il faut vraiment travailler fort pour arriver à ses buts. Donc, il a écrit entre autres une tune qui s'appelle Something for Nothing pour dénoncer les gens qui s'attendent à avoir tout gratuit, là, cuit dans le bec sans que les choses. Sans que les gens aient commencé à travailler fort. Et pendant qu'il écrivait son disque, 2112, il est arrivé à un événement, c'est que le disque précédent, ça n'a pas bien été selon la maison de disques. Okay? Puis l'album précédent, il s'appelait, si je le retrouve, il s'appelait... Bon, je ne le trouve pas dans ma liste, là. Mais l'album précédent n'avait pas été aimé, là. Il n'a pas été populaire, puis là, il y avait beaucoup de pression de la maison de disques. Et lui, il disait, c'est pas vrai que vous allez me dire comment écrire mon prochain album. Il voulait avoir des tunes plus commerciales, plus courtes. Donc, Rush est comme revengé un peu. Ils ont fait un album, dans le temps, c'est des vinyles, et la première tune dure tout le premier côté de l'album. En voulant dire, moi, je sais ce que je fais, vous n'avez pas d'affaire à vous mêler de ça. Et en même temps qu'il écrivait l'album, il a découvert, entre autres, les romans de Ayn Rand. Et Ayn Rand, c'est une libertarienne très connue, mais qui est très peu connue au Québec, parce qu'il ne faut pas que ce message-là se rende ici. Là. Donc, c'est une personne qui a écrit beaucoup d'ouvrages théoriques, mais aussi des romans. Et entre autres, pendant qu'elle écrivait un roman qui s'appelait... Attendez un petit peu, je le retrouve. En tout cas, pendant qu'elle écrivait un roman, elle se trouvait à écrire une nouvelle en même temps, qui allait être sortie plus vite. Okay? Donc, pendant qu'elle écrivait le roman de Fountainhead, elle a écrit une petite nouvelle qui se vend très rapidement qui s'appelle The Anthem, donc l'hymne.
Oui, l'hymne.
Et là, ça l'a influencé, s'est rendu compte que ça parlait un peu de tout ça. La liberté individuelle,
l'humanisme.
Et tout ça. Et il a décidé de... Je vais raccourcir ce que je voulais vous dire là, parce que c'était vraiment intéressant. Il a décidé de l'écrire sur les paroles dans la pochette de l'album, de remercier Ayn Rand pour l'inspiration qui venait de sa nouvelle Anthem, et ils se sont fait ramasser dans les médias, pas parce que les journalistes n'aimaient pas la musique, parce qu'ils venaient de s'associer à une personne de droite. Et il y a plein de magazines qui ont décidé d'écrire plein de cochonneries sur eux, entre autres, un magazine anglais qui s'appelle NME, qui a écrit comme titre d'article « No Pinko Socialist Allowed, Rush are all right ». Right dans le sens de droite.
De droite, ouais.
Pas dans le sens de c'est correct.
Non, c'est ça.
Et dans le texte, si on le ramasse, ils écrivent, entre autres, ils font un parallèle entre une partie des paroles du disque et un écriteau qui serait sur le camp de concentration de Auschwitz.
Ah, c'est...
Qui dit
c'est
que...
C'est-tu plate, ce rapprochement-là, toujours, non, avec ça. Des cas ouais. immondes.
Exact. Puis sur Internet, quand que les gens font des rapprochements avec Hitler, t'es un nazi, puis tout ça, ils disent, on te donne un point Godwin.
Ouais.
Parce que tu viens de... C'est tellement facile de sortir un argument comme ça que c'est complètement ridicule. Donc, ils ont fait des rapprochements comme ça. Puis Guedelli dit, ils nous ont fait passer pour des nazis, des fous extrêmes de droite. Et Guedelli qui dit, écoute, il dit, moi, je suis un descendant d'un survivant d'Auschwitz. Je la trouve pas drôle. T'sais. De se faire ramasser, de se faire traiter de nazi alors que ses ancêtres, ses grands-parents peut-être, là, ou des cousins, des oncles, ont passé par Auschwitz. Ouais. Mettons qu'il ne l'a pas trouvé drôle de ce côté-là. Donc, on va vous jouer une toune de Rush qui vient de cet album-là. Et je vais juste vous parler un petit peu des paroles avant qu'on la lance. Puis après ça, on va revenir avec David d'Antagoniste.net. Les paroles de la toune que je vais vous faire jouer, là, il parle vraiment d'enlever les libertés individuelles dans le livre. Donc, l'album, c'est quoi dans le fond? C'est qu'il y a des prêtres qui ont pris possession, un peu comme dans Star Wars, de toutes les planètes et tout ça, là. Et ils disent, entre autres, we've taken care of everything. Donc, on s'occupe de tout. Donc, c'est comme le gouvernement qui parle. The words you hear, the songs you sing. Donc, on décide de ce que tu vas entendre et de ce que tu vas chanter. The pictures that give pleasure to your eyes. Donc, les on va vous les enlever. It's one for all and all for one. Donc, un grand communisme. We work together, common sons. Never need to wonder how or why. Donc, c'est un grand pouvoir, un peu qu'on pourrait dire communiste, qui va vous dire, maintenant, là, on va vous dire comment penser, quoi écouter, quoi acheter comme peinture et tout ça.
La pensée unique.
Exact. Donc, lui, il descend, ça. Dans la toune que je vais vous jouer. Donc, la toune s'appelle The Temples of Syrinx, qui fait partie de l'ouverture, donc de la première partie de l'album, là, du côté A de l'album, dans le temps des vinyles. Donc, on va vous jouer ça, puis on vient après la pause à connaître la suite.
Bon, ben, on y va. We'll be right back. Quelle jouissance auditive! Désolé pour ceux qui n'aiment pas les longues pièces, mais ça en était une de 6 minutes.
C'est une partie d'une toune de 20 ou 21 minutes là, que j'ai découpée.
Ben, c'est ça, tu l'as coté. Hein, ouais,
ça s'appelle Ouverture, et il y a 7 parties à Ouverture. Donc, je l'ai coupé, là. Mais ça, c'est un extra officiel. Hein. Parce que les autres, ils ont découpé les tunes pour faire des singles là, à l'époque. Là, donc
connaître la suite, là, hein, c'est, on fait pas dans la dentelle. Donc, on est allé avec un bon stretch de 6 minutes. Ouais. Même si c'est la dernière, on pourrait profiter de chaque minute. Non, je pense que. Et on invite les gens à acheter, d'ailleurs, là, le DVD que tu nous parles, le Blu-ray, en fait.
Exact. Donc, c'est Classic Albums Rush.
Et j'ouvre une petite parenthèse parce que tu t'étais donné du mal. Tu voulais absolument nous faire des extraits audio. Et comme de malheur, là, le Blu-ray et ton ordinateur, ça, c'était pas compatible. Mais je tiens à dire aux gens, écoute, que tu as essayé et que tu as fait de ton mieux avec ton calepin. Puis c'était super. Écoute, tu nous donnais le goût sérieusement d'écouter du Rush. Oh, oui. Ça, c'est définitif. Là.
En plus, là-dessus, il parle de l'album justement Moving Pictures qui a Red Barquetta, Subdivisions et tout ça. C'était que,
là, je veux dire, j'étais un fan de Rush, mais tu viens de m'ouvrir encore sur un autre aspect du groupe que je connaissais pas.
Ils sont pour la liberté, donc achetez leur album, on va les récompenser.
Hey, là, Danny, primeur mondial même. On veut pas lui mettre trop de pression, mais c'est quelqu'un qui nous fait un grand plaisir d'avoir avec nous ce soir. Parce que c'est quelqu'un qu'on réfère souvent à l'émission, pas juste nous. On le tient à le dire, là.
Radio Pirate, Morée. Ses tableaux apparaissent à Dumont très souvent, à la chronique d'Éric Duhaime.
Oui.
Donc, tel quel, là, plaque, ça apparaît lors de l'émission.
Oh oui, c'est même pas retravaillé. Il n'y a pas de retouche là-dessus. Donc, on a le plaisir de recevoir David Gagnon du site Internet. Et là, notez bien l'adresse antagoniste.net. C'est un incontournable, je dirais. Surtout si vous avez des idéaux de droite. Vous voulez avoir l'heure juste et avoir un peu plus de détails. Donc, c'est quelqu'un qui suit aussi l'actualité, qui va fouiller davantage là, quand vous allez voir des choses apparaître dans les nouvelles. Lui, il va vous donner l'heure juste. Donc, ça nous fait un grand plaisir de l'accueillir. Salut, David.
Hey, salut, les gars.
Bien content de t'avoir avec nous ce soir.
Ah, ben, je suis bien content d'être là, puis merci pour la belle introduction.
Oui, mais j'espère qu'on t'a pas mis trop de pression. Puis en même temps, c'est parce qu'on est tellement heureux. On s'est dit, on peut pas ne pas souligner ton passage et faire des jaloux. Surtout que t'es vraiment sollicité, c'est important de le dire, là, puis on apprécie, puis regarde, la première fois que Danny m'a parlé de ta présence, j'ai dit « Ah ouais, il a accepté, puis pourquoi plus nous autres que d'autres personnes? » Parce que t'es, bien honnêtement, je pense que t'as été sollicité par plusieurs d'entre nous qui fait de la radio.
Ouais, j'ai eu quelques demandes, c'est juste une question de disponibilité, là, pour... C'est plus facile de faire une entrevue avec vous qu'avec les autres, mais c'est pas parce que j'aime pas le travail.
Je pense que c'est de bonne guerre. Donc, je vais laisser Danny prendre les rênes parce que c'est Danny qui a amené l'idée, qui l'a travaillé avec toi. Donc, je vais laisser Danny lancer le tout.
On va faire ça à deux, il n'y a pas de problème. Donc, David, on s'est parlé un petit peu au téléphone pour voir ce qu'on avait le droit de discuter ou pas.
OK,
pour être sûr. Donc, dans le fond, premièrement, une chose que peut-être il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, antagoniste.net, c'était pas ton premier blog. Tu avais un autre blog auparavant et j'aimerais que tu nous le décrives, ton ancien blog.
Le blog que j'ai eu précédemment, c'était manumilitary.net. Et puis, c'est le premier blog que j'ai fait, comme tu viens de mentionner. Mm-hmm. Puis, si tu faisais un blog, là, on n'aura pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. C'était franchement à gauche. C'était à gauche du centre. Et puis, comment que j'ai abouti avec un blog de gauche pour entrer dans le débat politique, si tu veux. C'est premièrement, le fait que je sois politisé, c'est quand même assez récent. Je te dirais que ça a commencé après septembre 2001, où j'ai commencé à m'intéresser aux choses politiques. Puis à cette époque-là, tu sais, j'étais ambivalent, la gauche, la droite, puis veux pas, quand on commence à s'intéresser aux questions politiques au Québec, comme on n'entend presque pas parler de droite, tu sais, c'était très peu, une position qui était très peu mature, donc c'était beaucoup de l'impression. Puis veux pas, bon, le travail des médias aidant, j'ai naturellement, si tu veux, couler vers la gauche. Mais même si c'était un blog de gauche, je te dirais que ça a été quand même très utile de partir mon aventure sur l'Internet à gauche parce que ça m'a permis vraiment de voir, d'explorer tout le spectre politique. Ça m'a permis de maturer moi-même les positions politiques que j'avais. Donc, je suis parti de la gauche avec Manu Militari. Puis quelques années plus tard, ben, on arrive avec Antagoniste.
OK. Puis tu traitais de quoi exactement sur Manu Militari? C'est quoi qui t'intéressait, là, dans, surtout dans les sujets de l'actualité de la gauche, mettons?
Je pense que le meilleur moyen de résumer le contenu du blog, ça serait de te dire, ça ressemblait presque mot pour mot, pas mot pour mot, ça ressemblait beaucoup au travail que Richard Etu fait sur Cyberpresse. Oh, donc c'est
on comprend tout. Mais
ça parlait
pareil.
Beaucoup de politique américaine, puis la politique américaine abordée sous l'angle du Parti démocrate. Mais ça ressemblait beaucoup à ça. Comme je te dis, c'était... Il n'y avait pas grand-chose de réfléchi là-dedans. On voyait quelque chose sur un blog de gauche américain. On faisait un copier-coller, puis on mettait un petit commentaire en bas, puis ça se limitait à peu près à ça.
OK. Puis juste pour dire, là, je sais qu'il y a une question que le monde aimerait qu'on te pose, là, mais juste pour dire, on dira pas quel métier que tu fais, mais okay. est-ce que de travailler sur un blog comme ça avait un lien avec ton emploi?
Non, ça... Le travail que je fais, c'était absolument pas relié à la politique, donc non, il n'y avait pas vraiment lien.
Donc, la politique, t'es venu, c'est les événements du 11 septembre qui t'ont allumé politiquement?
Ouais, parce que je me ramène à cette époque-là où, j'écoutais, la seule chose que j'écoutais comme nouvelle à la télévision, c'était les nouvelles du sport. J'étais absolument pas politisé. Puis quand le 11 septembre nous est arrivé en plein visage, bon, je me suis rendu compte personnellement que c'est pas parce que je m'occupe pas des affaires des autres que les autres s'occuperont pas de mes affaires. Donc, veux pas, ça finit toujours par te rattraper. Puis il y avait une soif de comprendre ce qui s'était passé, qu'est-ce qui avait causé ça, puis c'était quoi les implications que ça voulait dire. Donc, graduellement, ça m'a amené à me questionner sur les choses politiques.
OK. Puis t'avais quel âge à l'époque? Dans le fond, c'est il y a 10 ans, dans le fond?
Ouais, c'était au début de la vingtaine.
Ouais, OK. T'étais à l'université, probablement, puis... C'est ça, hein, on suit l'actualité d'un œil, mais à l'université, on a d'autres préoccupations, entre autres les demoiselles et la boisson. Donc là, tu nous disais, bon, tu fais Manu Militari, et là, à un moment donné, tu fais ça jusqu'à quelle année?
Je te dirais que le site s'est poursuivi jusqu'en 2006-2007.
OK.
Mais à partir de la moitié de l'existence du site, là, ça a commencé graduellement à tourner vers la droite. Là. Je commençais à me questionner puis à me demander si les positions que j'avais, c'était les bonnes, si j'étais sur la bonne track, si j'étais vraiment en train de jouer pour l'équipe qui pouvait m'amener sur ce que je voulais en politique.
Oui, parce que là, c'est je veux pas dire un coming out, là, mais les gens ce soir vont peut-être être surpris d'apprendre que t'es au départ avec un blog de gauche, puis là, aujourd'hui, t'es le blog de droite au Québec. Moi j'ai pas peur de le dire, là. En tout cas, t'es celui qui met le plus d'investissement en temps et je dirais même en énergie à nous fournir de l'information qui est très véridique, bien des fois, et comme on l'a dit, référencée. Donc, tu es en train d'influencer la l'élite politique de la droite.
Oh, j'ai aucune idée si j'influence ou... Moi, personnellement, je me considère comme j'ai un petit blog marginal. J'ai à peu près 1 000 000 de visiteurs par jour. Donc, je sais pas si en termes d'influence, il y en a vraiment une. Puis, il faut dire que si mon blog, je le fais pas parce que je m'imagine pouvoir changer le Québec. Là, le Québec, c'est 40 ans de révolution tranquille. C'est pas un blogueur qui va changer ça. Là, ça va prendre beaucoup plus que ça. Mon blog, là, je le fais vraiment pour moi. C'est parce que je veux m'informer. Puis, je partage les choses que je découvre. C'est pas vraiment parce que je m'imagine avoir une influence sur le futur de la province. Là. C'est, okay. J'ai pas cette prétention-là.
OK. Donc là, tu dis, 11 septembre, t'as influencé pour te politiser. Qu'est-ce qui a fait, quel événement a fait que du jour au lendemain, tu dis, c'est assez, là, je vais faire plus un bloc de droite, je vais fermer l'ancien site, je vais en ouvrir un nouveau. Il y a des événements qui sont survenus.
Oui, il y a quand même un événement charnière qui est survenu. C'est, comme je te dis, à peu près à la mi-existence de mon précédent blog, j'avais écrit un billet sur Hugo Chavez, les dérives totalitaires qui étaient en train de se dérouler au Venezuela. Donc, on était au début de la révolution bolivarienne amenée par Chavez. Puis, j'avais écrit un billet dans lequel je dénonçais là, le fait que Chavez voulait congédier tous les juges de la Cour suprême pour mettre des hommes de son parti, le fait qu'il était en train de politiser les programmes sociaux seulement pour donner accès aux gens qui militaient pour son parti. J'avais aussi dénoncé le fait qu'il fermait des stations de télévision, qu'il mettait des bâtons dans les roues des journalistes. J'avais écrit un billet là-dessus, puis j'avais conclu mon billet en disant, imaginez si c'était Bush qui agissait de cette manière-là, on serait tous dans les rues en train de manifester. Maintenant que c'est Chavez, un homme de gauche, qui fait ça, pourquoi est-ce que personne qui dénonce ça? Puis les réactions avaient vraiment été immédiates. J'avais été accusé d'être un traître, d'être un colonialiste à la solde des Américains, un néo-impérialiste. Bon, là. On connaît la série d'insultes qui va avec ça. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis posé la question. Est-ce que je suis vraiment en train de jouer justement dans la bonne équipe? Parce que c'est vraiment avec ces gens-là que je veux faire progresser mes idées politiques. Est-ce que c'est dans cette direction-là que je veux aller? Puis quelques semaines après, j'avais écrit un billet sur Ahmadinejad, dans lequel, encore une fois, je le condamnais. Puis encore une fois, je m'étais fait ramasser par mes lecteurs qui me disaient « Ça n'a pas de bon sens de condamner Ahmadinejad. T'es encore à la solde des Américains. Tu le diabolises avec les médias. » Puis là, c'est à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que la gauche qui se prétend être l'ambassadeur de la justice sociale, ben en réalité, était surtout anti-américaine puis antisémite. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, c'est pas avec ces gens-là que je veux faire progresser ma pensée politique. Donc, c'est vraiment à partir de ces deux biais-là où, que, tranquillement, je me suis dit, si la gauche a pu se tromper sur ces deux enjeux-là, sur quoi d'autre elle a pu se tromper?
Oh, c'est très important ce que tu mentionnes là. Parce que je sais pas si tout le monde qui supporte l'aile gauche se pose ces questions-là que toi, tu t'es posées. Parce qu'à un moment donné, là, on tombe dans le fanatisme, hein? Puis c'est dangereux, ça. C'est ce que tu as vécu, là.
Oui, ben c'est... Tu veux pas, à un moment donné, tu t'en viens à te demander... La gauche, elle a des objectifs qui sont vertueux. Tu sais, personne n'est contre les pauvres. Tout le monde veut aider les pauvres. Exact. Tout le monde veut aider les mieux nantis. Mais la gauche se pose rarement la question, est-ce que les objectifs correspondent aux résultats? La gauche, dans son discours, là, c'est les objectifs. Les résultats, ça passe par après. Alors que moi, je me suis rendu compte que ben, les objectifs qu'on avait quand on était à gauche... Pour avoir des résultats, ben, c'était peut-être pas le meilleur chemin utilisé. C'était probablement plus efficace, justement, d'avoir des idées de droite et de liberté individuelle pour accomplir ces objectifs-là, pour avoir des résultats qui étaient tangibles pour les gens.
Okay. Ici, justement, Fred Tétu, ici à l'émission, avait dit au Québec, c'est pas les résultats qui comptent, c'est les intentions.
Ah, exactement.
Donc, tu avais fait la même découverte, là.
Oui.
Tu avais déduit.
Le parallèle est excellent.
Ouais. Donc, c'était ça, la conclusion, t'en es venu.
Oui, ouais, ouais. Comme je te dis, ben, à partir de là, ça s'est fait vraiment graduellement. Je me suis dit, comme je viens d'expliquer, si je me suis trompé sur ces choses-là, sur quoi d'autre j'ai pu me tromper? Exact. Puis tous les auteurs, comme les Milton Friedman, les Ayn Rand, quand j'étais de gauche, je voulais même pas les lire, ces gens-là, parce que je me disais, je suis de gauche, donc je suis contre ces gens-là. J'ai même pas besoin d'aller savoir ce qu'ils ont à dire. J'ai pas besoin de comprendre leur pensée politique, parce qu'étant de gauche, je sais qu'ils ont pas raison.
Exact.
Mais quand on commence à se questionner, ben on se dit, ben finalement, peut-être qu'il y a quelque chose là qui vaudrait la peine d'être compris. Donc, on se met à lire ces auteurs-là, on se rend compte, ben, ce qu'ils disent, ça fait du sens, c'est logique, c'est cohérent, c'est rationnel, c'est pas seulement émotionnel, il y a vraiment on ne s'attarde pas simplement aux objectifs, mais on s'attarde aux résultats. Donc, graduellement, petit à petit, en acceptant d'être challengé, parce que, veux pas, à cette époque-là, j'avais quand même des sympathies de gauche, mais en acceptant d'être challengé par des intellectuels de droite, je me suis rendu compte que c'est peut-être eux qui avaient raison, puis c'est peut-être moi qui avais tort.
OK. Puis ça t'a pris seulement deux réactions, dans le fond, à deux articles. Des réactions à deux articles, là, ça t'a carrément dit, là, ça n'a aucun sens. Ça t'a allumé autrement, dans le fond.
Oui, oui. Comme je te dis, par la suite, ça s'est fait de manière graduelle, mais ces deux biais-là, là, ça fait plusieurs années qu'ils ont été écrits, puis je m'en rappelle encore. Donc, ils m'avaient particulièrement choqué, les réactions que j'avais eues.
OK. Puis les gens de la gauche qui... dans le fond, on disait, tu étais dans le champ là, concernant, je vais dire, le président iranien, pour pas me tromper dans le nom, là, je le prononce tout mal. Là. Donc, c'était-tu des gens de la gauche québécoise qui dénonçaient ça ou c'était du lectorat francophone mondial, dans le fond?
T'es-tu
au courant?
C'est difficile à dire, mais j'aurais tendance à dire que c'était en majorité de la gauche québécoise. Tu sais, à ce moment-là, là, tu sais, Chavez venait d'arriver au pouvoir, c'était la saveur du mois, c'était la même chose pour Ahmadinejad, il venait d'arriver au pouvoir, lui aussi, c'était la saveur du mois. On referait le même exercice aujourd'hui, puis je suis pas mal sûr qu'il y a pas mal de gens de la gauche qui finiraient par admettre que, bon, peut-être qu'on s'était trompé à l'époque, qu'on aurait dû l'admettre aussi, mais ils l'ont pas fait, puis même encore aujourd'hui, je suis pas sûr si la totalité des gens seraient prêts à faire cet examen de conscience-là, mais dans mon cas, je l'ai fait.
OK. Puis toi, tu sais quoi, t'as décidé de prendre le blog Manu Militari, pesé sur Delete, puis on en part un autre? Y a-tu eu un grand temps entre la fin du premier blog et la création du deuxième?
Ouais, c'est quand j'ai formé Manu Militari en fait, c'est parce qu'à la fin, je n'étais plus capable de défendre les idées auxquelles je croyais auparavant, donc je me suis dit, ça donne rien de continuer dans cette voie-là. Donc j'ai formé le blog. Je te dirais qu'il y a eu un hiatus d'à peu près un an avant que j'ouvre Antagoniste. Puis même les gens qui vont aller relire les premiers billets qui ont été écrits sur Antagoniste, ils vont voir qu'au début, j'étais plus à droite, mais j'étais loin de la pensée libertarienne. Là. Pour vraiment m'amener à la pensée libertarienne, il y a des gens comme Martin Mans là, du Québécois Libre qui ont fait un travail extraordinaire.
Ouais.
C'est vraiment ses écrits, ses textes, son site qui ont fait de moi une personne là, qui a vraiment vu, qui a vraiment compris que ce que je voulais... c'était représenté dans le courant libertarien.
OK. Et là, donc, ça a commencé en quelle année, antagoniste? 2007, tu disais, hein?
2006? 2007,
oui. OK, parfait.
Donc, l'année qui a créé à peu près le mauvais monde de la droite, ouais. Hein, je pense que...
C'est encore dans nos années.
Ben oui, 2006-2007.
Moi et Steve, c'est 2006-2007. Moi, c'est 2007. Il y a eu vraiment un boom, là. Les gens qui étaient pas... qui tripaient pas sur le web nécessairement à l'époque, là, ils ont vraiment manqué un boom de gens de droite. Moi, j'avais mon site. Toi, tu avais un site aussi, mais ton émission de radio. Après ça, j'ai parti à la mienne. Donc, il y a eu un boom incroyable. Ceux qui ont manqué ce boom-là, là, ils ont manqué quelque chose sérieusement. Ça brosse.
On n'a pas fait d'argent, mais au moins, ça nous a permis de combler le vide. Parce que j'imagine qu'il y avait un peu de ça aussi. Quand tu as repris ton blog, David, c'est parce que tu sentais qu'il y avait encore un vide puis que tu devais t'exprimer là-dessus.
Ah ben oui, je continuais à lire, je continuais à m'informer. Puis ce que je voyais, ce que j'apprenais, ce que je comprenais, je me rendais compte que c'était reflété nulle part dans les médias.
Ben.
Puis je me suis dit, ben, je dois pas être le seul à penser comme ça. Ce que je veux dire, les opinions que j'ai, c'est rationnel, c'est basé sur des faits objectifs, c'est vérifiable. Mm-hmm. Je me suis dit, ben, ça serait peut-être important de partager ça. Bon, probablement, s'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi. Puis s'il y en a d'autres, ben, peut-être qu'ils vont prendre le relais et qu'on va réussir à faire avancer ça.
Et ceux qui te suivaient du temps de l'ancien blog, là, ils ont pas fait de lien avec le nouveau blog, dire « Ah, c'est David, ça? »
C'est le même?
Ah oui, je te dirais que la majorité, oui. Parce que ça, je suis un peu surpris que vous ne saviez pas que j'avais un blog de gauche, parce que j'ai toujours pensé que c'était un secret, qu'il n'y en était pas vraiment un dans la blogosphère. Mais quand j'ai parti mon nouveau blog antagoniste, j'ai envoyé un email à tous ceux qui étaient inscrits sur le site Manu Militari auparavant.
OK.
Fait que... ces gens-là, il n'y avait pas de cachette, ils savaient que c'était la même personne.
OK. Là, ça devait bouillonner dans tes commentaires de voir le changement de cap?
Ouais, mais comme je te dis, au début, c'était quand même beaucoup plus soft. Là,
ouais, c'est ça.
C'est fait graduellement, mais je te dirais que peut-être trois encore des gens qui laissaient des commentaires au début d'Antagoniste, qui laissaient aussi des commentaires sur ma lumière militaire. Aujourd'hui, je les ai perdus. Là.
OK. Juste pour te dire, là, la semaine passée, je suis allé relire tes premiers en 2007, par curiosité. C'est vrai qu'il y a un changement de ton. Là, tu me le dis, là, puis là, je le constate. C'est vrai que c'était plus... je sais pas, t'étais peut-être un petit peu moins dans les chiffres, moins dans les statistiques, ça se peut-tu?
Ah ouais, non, c'est très vrai.
OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené, là? Écoute, tu cites toujours tes sources dans tes billets. Statistique Canada, l'Institut statistique de la Québec, des think tanks américains, tout ça, là. Comment tu as fait pour en venir à dire, « Hey, moi, là, je vais me renseigner sur tout ce qui existe comme source d'information, là. » Tu as fait ça graduellement, puis tu as appris l'existence du Pew Research, je sais plus trop quoi, puis tout ça. C'est par toi-même que tu as découvert ça? Oui,
c'est à force de fouiller, parce que une autre chose que j'ai réalisé, c'est qu'on peut pas vraiment faire confiance à ce qui se dit dans les médias. C'est, quand c'est vraiment, c'était le début de ma démarche, je lisais quelque chose dans les médias, puis si on citait une source, ben au lieu de continuer à lire l'article, j'allais directement lire la source d'information originale.
Exact.
Pis la plupart du temps, on se rend compte que, ouais, bon, l'article, il n'y avait pas de mensonge, mais on n'avait pas présenté tout le portrait. Il y avait des choses qui étaient oubliées, qui étaient escamotées, il y avait des nuances à faire qui n'étaient pas faites. Donc, c'est vraiment cette manière-là que ça s'est fait.
OK. Ici, si on peut donner un avantage, là, peut-être qu'il y en a qui vont crier là, quand je vais dire ça, mais si on peut donner un avantage au site web de Radio-Canada, c'est que souvent, dans le bas de leur article, ils mettent la source, là, le rapport vraiment complet, mettons le rapport Pronovo, le rapport du comité Castonguay, on le trouvait dans le bas de l'article. Donc ça, j'aimerais ça que tous les journaux fassent ça maintenant, vu qu'ils sont sur le web, là, ce serait une très bonne idée, là, parce que ça donnerait peut-être plus le réflexe au monde d'y aller cliquer, puis d'aller le lire eux-mêmes. Là.
Exact, oui.
Parce que moi, j'avais déjà lu un article là, dans le temps là, sur mon blog, un article qui parlait du diabète, entre autres, puis... il avait découvert, tant de minutes d'exercice, puis tout ça, puis bon, ça faisait baisser le taux de sucre, puis tout ça. Puis quand tu allais lire la recherche pour vrai, là, il avait carrément escamoté ce qu'il disait vraiment à la recherche. Là. Donc, ce serait bon que les médias, peut-être que ce serait une chose qu'à trois, on pourrait pousser. Là. Ouais. Essayez de mettre vos sources en bas aussi. Là.
Tout à fait. De toute façon, il y a quasiment des droits là-dessus. T'es supposé de normalement, t'es obligé. Parce que sinon, si tu cites... Et justement, ton implication là-dessus, parce qu'aujourd'hui, tu deviens antagoniste, celui qui utilise la même recette, tu fouilles beaucoup et tu cites beaucoup de sources, mais toi, t'es rendu une source. Comment tu... c'est quoi ton interaction comme ça quand on voit, puis là, on va mentionner une émission, mais c'est à Dumont où on retrouve beaucoup de tes tableaux. Est-ce que t'es informé à l'avance quand les gens viennent piger maintenant? On salue Ariane de l'Institut économique aussi qui semble très intéressée à ton travail. Est-ce que t'as connaissance de chacun de ces dossiers-là? Est-ce qu'on t'informe avant?
Non, la plupart du temps, je découvre en même temps que les spectateurs.
Ah ouais?
Puis ça me dérange absolument pas. Là, sur mon site, il n'y a absolument rien qui est copyrighté. Il n'y a aucun graphique qui ne peut pas être repris. Moi, ce qui compte, c'est que c'est pas que mon nom soit nommé et que je sois référencé. C'est que l'information circule. Le reste, là, ça m'importe peu. Okay.
Mais c'est quand même intéressant, du point de vue de l'effort que tu as investi, de voir que l'analyse que tu en fais, le résumé dans un ou deux tableaux est cité après ça, parce que tu as sauvé, c'est plate pour ces gens-là, mais en même temps, un jour, j'espère qu'ils vont quand même reconnaître l'effort que tu fais, puis eux vont s'en inspirer pour mettre autant d'efforts, parce que ultimement, tu fais sauver du temps à nos journalistes.
Ouais, ben c'est sûr. Bon, un défaut qu'on pourrait peut-être reprocher aux journalistes, c'est que la plupart du temps, ils se limitent à citer le communiqué de presse, puis ils vont pas voir là, ce qu'il y a au-delà du communiqué de presse. Là, c'est un bon exemple de ça, c'est durant la dernière campagne électorale, quand que Gilles Duceppe avait dit qu'André Arthur, c'était le député le plus absent de l'Assemblée nationale. Ah, ouais. Ça avait été repris intégralement dans les médias. Il n'y a pas personne qui s'était posé la question à savoir si c'était vraiment vrai. De mon côté, j'avais été voir les statistiques originales du groupe qui avait compilé ces chiffres-là. Je me suis rendu compte que André Arthur, effectivement, c'était pas le plus présent à l'Assemblée nationale.
Mais il y en avait
bien d'autres que lui qui étaient absents.
C'était des bloquistes, en plus. C'était les bloquistes qui étaient plus absents, en général.
Exactement. Puis je veux dire, on parle beaucoup du déclin du journalisme d'enquête, mais ça s'en est en réalité du journalisme d'enquête, mais c'est pas du journalisme d'enquête qui va s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça, c'est quelque chose qui prend une demi-heure. Tu fais une recherche sur Google, tu tombes sur le site, tu ouvres une fenêtre Excel, tu rentres tes chiffres, puis tu te rends compte immédiatement que ce qu'il y avait dans le communiqué de presse du parti politique, ben c'est pas toute la réalité.
Exact.
Donc, oui, du journalisme d'enquête, mais il faudrait que les journalistes aussi réalisent que ça peut se faire sans avoir nécessairement des moyens énormes.
Ben parce que oui, parce que t'en es la preuve vivante, à moins que tu nous annonces que tu fais partie d'un institut puis d'un gros think tank avec une équipe. Je pense pas que c'est le cas.
Non.
Puis, je veux dire, à quelque part, le compte-rendu, la rigueur que tu mets, moi, c'est ce qui... Tu sais, quand on me parle d'antagonisme, moi, c'est la rigueur. Tu sais, je suis convaincu, tu sais, on peut trouver toujours des petites failles, puis on peut discuter des fois ou argumenter autour de chiffres, mais je veux dire, c'est rempli de rigueur, ça déborde de la rigueur. Fait que moi, je veux dire, je donne beaucoup de respect à ça, puis je pense qu'à quelque part, les gens, c'est ce qu'ils apprécient beaucoup de ton blog, parce que, tu concentres tes énergies à justement donner des faits. Puis, tu t'éternises pas. Oui, tu mets du texte, mais moi, j'aime tes tableaux. Hein. On dit une image vaut mille mots, mais moi, je dis un tableau d'antagoniste, ça vaut mille mots. Parce que tu frappes assez souvent de façon précise.
Ah oui, c'est fou. La clé, c'est de synthétiser l'information pour que ça soit le plus simple et le plus rapide possible à comprendre.
Ça, tu l'as compris, je pense, parce que tu as souvent un tableau qui suit chacune de tes articles.
Oui.
Tu as le sens de la formule aussi. Moi, je vais vous lire une des phrases d'un de tes articles d'aujourd'hui, là. Tu parles du Colisée de Québec, entre autres.
Du Colisée de quoi?
Du Colisée de Québec. Et tu dis, nos politiciens sont incapables de remplir des nids de poules et on s'imagine qu'ils sont aptes à piloter des projets de 400 millions.
Ça veut
tout dire. Écoute, je m'excuse, là, mais c'est
assassin.
Moi, c'est ça l'aspect là, de David là, qui me fait triper. Là. Il n'y a aucune insulte, mais c'est right to the point, ça dit ce que ça a à dire.
Ouais.
Donc, ça, c'est moi, c'est mon côté là, fafan, là, un peu, là. Ton site, c'est vraiment
ben,
ça. Là.
C'est parce qu'avant tout, on est des fans, faut dire, nous, on est inspirés aussi par des gens comme David, puis comme plein de gens comme ça qui ont des blogs. Puis, à quelque part, on l'a toujours dit, puis on l'a dit à la première émission, puis j'en profite de le dire parce que c'est la dernière aussi. On est aussi émerveillés par tout ce qu'on lit. On n'est pas là pour détenir la vérité. On est là, en fait, pour promouvoir ceux qui comme nous, veulent donner un grain de sel là, de plus là, dans ce mouvement-là de droite. Moi, la question que j'ai pour toi, puis qui m'est arrivée de certaines personnes, comment tu choisis, parce que on sait qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de nouvelles, comment tu sélectionnes sur les dossiers, comment tu t'en fais la sélection pour dire, bon, je mets l'accent plus là-dessus. Y a-tu des catégories qui te fascinent plus que d'autres, ou c'est selon tes humeurs et selon l'information que tu retrouves?
Ah, je te dirais que c'est vraiment selon l'inspiration du moment, et puis si je suis capable de trouver une information supplémentaire ou pas. Il y a beaucoup de sujets que je voudrais aborder, mais que j'ai pas le temps de les pousser plus loin, j'ai pas le temps de trouver une information. Donc, je me concentre sur ce qui m'inspire, puis sur ça, les choses que je peux documenter.
Okay.
Parce que ceux-là qui me suivent sur Twitter, là, tous les tweets que j'envoie, là, si j'aurais le temps, puis si j'aurais des moyens, là, c'est tous des trucs que je ferais des billets avec.
Ouais.
Mais bon, j'ai pas le temps de tout faire ça, donc je me concentre sur ce que je peux documenter le mieux, puis ce que je peux vraiment avoir, être le plus rigoureux, justement.
Mais justement, est-ce que tu es frustré par rapport à ça? Est-ce que si demain je te donne 150 000, là, je te donne le salaire d'un député du NPD, est-ce que tu t'investirais à la cause ou pas partout? À quelque part, tu dis, ah, c'est, ça, ça va demeurer un hobby, puis c'est une activité parallèle, puis je sais pas, je te soulève la question.
Ben, au début, c'était un hobby, mais on finit par y prendre goût, hein?
Ouais,
hein? Plus on écrit de billets, plus on se pose la question, puis plus on se dit, ah, ça, ça serait le fun si j'aurais les moyens de pouvoir investiguer ces choses-là, parce que tu veux pas, je suis pas un journaliste, tu veux faire des demandes d'accès à l'information, c'est quelque chose que j'ai absolument pas le temps de me consacrer,
ah oui.
Mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant.
Ouais, ouais,
on pourrait aller chercher l'information supplémentaire.
C'est vrai ce que tu dis, parce que là, regarde, nous, c'est notre dernière émission de la saison. Là, la semaine prochaine, il va arriver des affaires dans l'actualité, puis on va dire, maudit, j'arrive à parler de ça vendredi prochain. Donc, quand tu prends des congés, toi, mettons, là, ça doit être pareil. Là. Tu dis, ah, j'aurais tellement aimé ça, parler de ça.
Ah, je te dirais que quand je prends des deux périodes de vacances durant l'année, à Noël, puis durant l'été, j'ai mon calepin, puis à chaque fois que je vois quelque chose passer, ouais. Je prends une note, je dis, ah, ça serait bien si je ferais un billet là-dessus en revenant de vacances.
OK. Puis justement, on parlait de Twitter tantôt, là, j'avais justement une question là-dessus. Tu étais vraiment actif pour mettre des liens vers des articles de journaux. Là. As-tu, sois honnête, là, as-tu vraiment eu le temps de tout lire ce que tu mets sur Twitter?
Tout lire sans exception, du premier au dernier mot, non.
Non?
Mais tu sais, c'est des choses que je lis le titre. La plupart du temps, là, je vais lire les deux, trois premiers paragraphes, je vais lire le dernier paragraphe. Puis ça, je constate que c'est important. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet-là, ben, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être lu. Il y a de l'information là-dedans qui est pertinente, qui est intéressante. Mm. Mais non, je peux pas te dire que je lis tout sans exception de la première à la dernière phrase.
OK. Ben, je suis content parce que ça veut dire que tu as une vie. J'étais inquiet.
Oui, parce que si les gens aiment ce qu'ils peuvent consulter sur ton blog, tu es très actif. Hein, tu es vraiment très actif sur Twitter. Donc, j'invite les gens à s'abonner à ton compte Twitter qui est antagoniste_net parce que moi, c'est assez souvent, là, t'es une source d'inspiration. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont très, très, très actifs. Puis, t'es cité par un paquet d'autres. C'est ça qui est intéressant. Hein? Sur Twitter, tu peux voir facilement quand il y a un phénomène parce que quand t'es abonné à 3, 4, 50, puis là, tu vois que ces 3, 4, 50-là refaire toujours le même article. Là, tu dis, il y a quelque chose qui se passe. Là, puis je le vois souvent. Là, que ce soit Nag, que ce soit Antagoniste, tout ça, on les voit là, et qui interagissent. Puis ça, là-dessus, toi, est-ce que t'as des sites comme ça ou des références que tu consultes là, de façon journalière que tu pourrais suggérer oui, à notre auditoire?
Oui, un bon site, c'est surtout des sites d'information qui sont plus orientés vers la politique américaine, mais il y a instapundit.com, hotair.com, qui sont vraiment deux bons sites. Il faut être intéressé par la politique américaine, parce que c'est sûr qu'il n'y a absolument aucune analyse d'un point de vue là, de l'actualité canadienne et québécoise là-dedans.
Okay.
Mais là, ça sert souvent d'inspiration parce que des fois, on va lire des articles sur la politique américaine où ils présentent l'information, où ils présentent un graphique. Puis je me dis, ben, ça serait intéressant de faire le même exercice pour le Québec et pour le Canada, voir quel genre de résultat on obtiendrait. Donc ça me sert vraiment souvent d'inspiration. Là. L'analyse qui se fait aux États-Unis, parce que je veux pas aux États-Unis, il y a beaucoup de think tanks, il y a beaucoup de gens qui scrutent l'information. Donc, si eux, on est capable de trouver des stats pour faire ça au State, ben, si on ferait la même chose ici, quel genre de choses qu'on pourrait observer?
OK. Puis, quand tu as parlé d'Américains et tout ça, j'aimerais ça que tu nous parles de tes différents combats de coq avec certains journalistes québécois, entre autres.
Il y en a quelques-uns.
Entre autres, Richard Etu. Je sais que tu as parti un combat avec Jean-François Lisée aussi. Parle-nous donc de ces combats-là épiques là, entre tes opinions et les leurs, ou tes faits et leurs opinions plutôt.
Bon, premièrement, on est à l'opposé du spectre politique.
Mm-hmm.
Puis, c'est ce que j'en reviens pas, c'est que encore une fois, là, j'étais sur le blog d'Élysée avant l'entrevue, puis un de ses billets qui est présenté aujourd'hui, dans lesquels il dit que les Québécois, c'est parmi les moins imposés du G7, là, des pays industrialisés.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, dans la même année, Jean-François Lisée a réussi à écrire trois billets. Un billet dans lequel il dit qu'on est parmi les moins imposés des pays industrialisés, un autre billet dans lequel il dit qu'on est un des pays industrialisés qui a le plus de programmes sociaux, puis un autre billet qui dit que notre dette, c'est pas vraiment important parce qu'on a des actifs.
Ouais.
Donc, au Québec, on n'impose pas, on a plein de services, puis on n'a pas de dette. Je ne sais pas par quelle logique mathématique ces trois faits-là là, qui avancent peuvent balancer les uns avec les autres, mais c'est vraiment ça. Quand je vois ça me désespère là, de voir qu'il y a des gens qui sont capables de dire des choses comme ça. Fait que, c'est la même chose avec Richard Etu. C'est toujours le même angle qui est présenté quand ils parlent du Parti démocrate. Ils font jamais d'erreur, puis le Parti républicain, peu importe ce qu'ils font, c'est Satan en personne. Donc,
exact.
Ben, en réalité, mon blog, c'est surtout ça, là. C'était vraiment pour donner un autre point de vue, l'autre côté de la médaille, pour dire que, bon, OK, ces gens-là ont le droit de penser, puis ont le droit de faire les affirmations qu'ils font, mais il n'y a pas juste ça, il y a d'autres choses qui font avec ça.
effectivement. Puis l'affaire, c'est ça, Richard, es-tu ce qui est drôle, là, pour ceux qui suivent qui suivent quand même, là, moi j'ai arrêté de le suivre, là, mais ce qui est drôle, c'est que des fois, il faisait une affirmation, il rapportait une nouvelle sur un républicain, et finalement, ben c'était une fausse nouvelle, et lui, il ne rapportait pas que finalement, non, c'était pas vrai. Donc les gens restaient dans l'impression que la nouvelle sur un tel républicain était vraie, et il faisait pas le rectificatif quand il s'était prouvé que c'était pas vrai, dans le fond, et toi, tu le faisais sur Antagoniste.
Un des exemples les plus classiques de ça, c'est l'été passé. Il y a eu un recensement aux États-Unis, puis Glenn Beck, lui, il avait pris position contre le recensement parce qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient personnelles là-dedans, puis qui, selon lui, c'est une intrusion dans la vie privée des gens. Puis durant cette période de recensement-là, justement, il y a un employé du recensement qui a été retrouvé pendu à un arbre avec les lettres Fed gravées sur sa poitrine. Donc, tous les blocs de gauche aux États-Unis se sont empressés de dire « Mais vous voyez, la rhétorique haineuse de Glenn Beck est responsable du meurtre de cette personne-là. » La police a fait son enquête, puis quelques mois plus tard, on a découvert que finalement, le type s'était suicidé, puis il avait mis en scène son suicide.
Bon.
Il n'y a pas personne qui a pris la peine de corriger l'information.
Exact.
Fait que ce qui est resté dans la tête des gens, c'est que la rhétorique haineuse de Glenn Beck était responsable d'un meurtre.
Exact. Mm. Puis on l'a vu aussi dans l'histoire du tireur en Arizona.
Ah, ça, c'était un cas classique.
Ça, c'était épouvantable, hein?
Les corps n'étaient même pas rendus à l'hôpital, qu'on accusait déjà les médias de droite aux États-Unis, puis plus l'information circulait, plus on se rendait compte que le type avait absolument aucune motivation politique, puis plus on se rendait compte que le type avait pas de motivation politique, moins on en parlait, on parlait de l'histoire au Québec.
Moins de couverture.
C'est ça. Le dossier était fermé ici.
Exactement.
Donc, bravo. Donc, ceux-là qui suivent les... C'est ça, c'est pas un danger, mais ceux... Je pense que la majorité des Québécois, peut-être, sont même pas intéressés par la politique américaine. Ceux qui sont intéressés un peu, ils vont le regarder en surface. Donc, ils n'ont jamais la vraie histoire, là, s'ils arrêtent de suivre.
Non. Puis la politique américaine, j'ai l'impression que, justement, on en parle toujours comme vraiment une politique, là, étrange, qui est difficile à comprendre, mais on n'investit pas beaucoup au Québec, parce que tant qu'à moi, nos attachés là à l'extérieur du Canada, c'est pas avec ça qu'on va se faire une bonne tête. Puis toi, écoute, tu sembles être à l'aise à lire en anglais, Antagoniste.
Oui.
Et je me dis qu'à quelque part, tu dois te considérer choyé, je veux dire, c'est un avantage que t'as. J'imagine que quand t'arrives au Québec où tu veux lire dans la francophonie, puis là, c'est plate, parce que la francophonie, pour nous autres, ça veut dire la France, puis c'est pas nécessairement un modèle qu'on veut absolument suivre. Donc, tu dois sentir un peu biaisé dans les médias québécois, là. Tu dois te sentir privé, là. C'est un jeûne.
Bah, c'est sûr que je pourrais pas faire le travail que je fais sur mon site si je pouvais pas lire les textes en anglais ni comprendre... les vidéos en anglais. C'est absolument essentiel. C'est vraiment ça qui est le plus frustrant, c'est quand on voit le contraste de l'information. Tu sais, parce qu'aux États-Unis, il y a des médias de gauche aussi, mais il y a aussi des médias de droite qui permettent de faire un équilibre. Puis au Québec, on n'a pas cet équilibre-là. Tout le monde pense de la même manière, puis si tu as le malheur de penser autrement, ben t'es un méchant, puis faut pas porter attention à ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, étant donné qu'il y a une plus grande diversité d'opinions, d'un point de vue intellectuel, c'est pas mal plus stimulant.
Ouais. En plus, si on se fie au BBM, là, les Québécois aiment regarder la télé. Ouais. Là, s'il y avait un réseau qui était plus de droite, ça pourrait peut-être avoir un effet sur l'opinion publique.
Ben, on invite les gens à investir, puis je suis convaincu que si on donne une position à David, là, on pourrait l'avoir. Il pourrait nous faire des belles manchettes.
Y a-t-il des think tanks justement américains là, que t'aimes le modèle puis tu te dis mon Dieu ça prendrait ça au Québec? Y a-t-il des organismes que t'aimes plus que d'autres quand tu fais tes recherches?
Oui, il y a le Cato Institute qui eux c'est vraiment un think tank libertarien, qui font un excellent travail. Il y a le Heritage Foundation qui lui est un peu plus néo-conservateur. Puis il y a le AIE, c'est l'American Freedom Enterprise, quelque chose comme ça, je me rappelle pas exactement du titre complet, qui lui a plus une perspective pro-libre marché. Mais je te dirais que le think tank que j'aime le plus aux États-Unis, c'est vraiment le Cato.
Ouais. OK. Puis penses-tu que c'est implantable ici? C'est quoi? C'est basé sur quoi? C'est financé comment? T'en connais-tu un peu sur le Cato Institute? Comment ça fonctionne?
Honnêtement, sur le mode de fonctionnement comme tel, j'en connais pas vraiment beaucoup. Je sais que y a les frères Koch qui ont été démonisés dans les médias québécois. Les rares personnes au Québec qui en ont parlé, c'était pour les accuser d'être des suppôts de Satan qui investissent dans le Cato Institute pour que ça puisse fonctionner. Mais il faut dire qu'aux États-Unis, il y a aussi le pendant opposé. Il y a George Soros qui finance des think tanks de gauche. Donc, mais personnellement, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est c'est pas la personne qui finance une idée qui va déterminer si elle est vraie ou si elle est fausse. C'est l'information qui est derrière cette idée-là. Est-ce qu'elle est rigoureuse? Est-ce qu'elle peut être vérifiée? C'est ça qui détermine si une information est valable ou pas.
Exact. Toi, tu te déclares libertarien. Hein? Tu te présentes comme étant libertarien?
Oui.
Ça veut dire quoi pour toi, puis pourquoi tu es libertarien?
Ça, c'est une grosse question.
Merci.
Libertarien, mais personnellement, je définis ça. Si on veut vraiment donner la définition la plus simple possible, c'est ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Donc, ce que tu fais, tant ou si longtemps que ça ne brime pas la liberté d'une autre personne, ça devrait être légal, puis il n'y a pas personne qui devrait t'empêcher de faire ça, puis c'est pas au rôle du gouvernement de décider, par exemple, ce qui doit être dans notre assiette. C'est notre camp, c'est nous qui décidons, c'est nous qui prenons nos décisions, c'est à nous de nous responsabiliser. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, c'est l'exemple classique lorsqu'on dit qu'on est libertarien, les gens disent, ça veut dire que ça ne te dérangerait pas que les gens aient des armes et qu'ils tirent dans la rue. Non, c'est ridicule ça, parce que tu brimes la liberté d'une autre personne.
Mmh.
Donc, puis on en vient, vous avez beaucoup aussi abordé la thématique des politiques régaliennes.
Oui.
C'est parce que dans le courant libertarien, il y a beaucoup de courants différents. Puis un des courants avec lesquels peut-être j'ai un peu plus d'affinité, c'est le courant minarchiste. Donc, l'État minimum, il y a quand même un certain rôle pour l'État. Le protéger les frontières, avoir un système de justice pour s'assurer qu'il y a un respect de la propriété privée, puis avoir un certain rôle de police, encore une fois, pour s'assurer que la liberté des uns ne va pas empiéter sur la liberté des autres.
OK. Puis penses-tu que... C'est-tu un monde imaginaire, un monde libertarien, ou ça serait applicable un jour, là... Dans une société là.
Est-ce qu'on peut concrétiser ça?
Mettons.
Peux-tu concrétiser ça au Québec? Ouais.
Jusqu'où qu'on pourrait aller, mettons?
Ouais, c'est... Comme je disais tantôt, on sort de 40 ans de révolution tranquille dans lesquelles on s'est fait marteler qu'il n'y avait absolument rien qui était possible sans l'État. Donc, si on me demande si on est capable d'implanter ça au Québec, je te dirais qu'on n'est pas différent des autres personnes. Qu'on soit Québécois, Américain ou Canadien, on aspire tous à être libre. Mais il y a vraiment un travail de... Je dirais pas de déconstruction, mais de faire comprendre aux gens que la liberté, ça n'a pas nécessairement la même explication pour toutes les personnes. Puis, veut pas, ça va être quelque chose qui va être graduel. T'sais, la révolution tranquille, elle s'est faite d'un coup sec, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va pouvoir revenir d'un coup sec. Ça va être quelque chose qui va être excessivement graduel, qui va être long, parce qu'il y a un énorme travail de pédagogie à faire.
Okay.
Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être faisable.
Toi, d'après toi, y a-t-il un pays présentement dans le monde qui se rapproche le plus de ce que c'est justement un pays libertarien? Y a-t-il un pays modèle présentement?
Ouais, ben encore là, des modèles parfaits, il n'y en a pas vraiment.
Non, pas parfaits, mais qui s'en approche le plus, mettons.
Si on regarde au niveau de l'économie, tu prends des pays comme Singapour ou Hong Kong, eux, d'un point de vue économique, sont très libertariens. D'un point de vue social, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais d'un point de vue économique, ils sont libertariens. Ça montre au moins que l'approche libertarienne sur le plan économique, elle fonctionne. Ces deux pays qui ont complètement rejeté le protectionnisme, le nationalisme économique, qui ont ouvert leur marché, qui ont pratiqué le libre-échange, puis c'est deux success stories, là. C'est des pays là, qui sont partis de rien, puis qu'aujourd'hui sont rendus des powerhouses sur la scène mondiale.
Okay.
Donc, au point de vue économique, il y a beaucoup d'exemples. Au point de vue social, ben, encore une fois, c'est il y a une mosaïque d'idées libertariennes.
Ouais.
Si on regarde aux États-Unis, un État qui est intéressant à suivre, c'est le New Hampshire. Il y a eu un classement du Mercatus Center qui est sorti cette semaine,
mm-hmm.
qui démontre que économiquement c'est l'État le plus libre, puis au niveau social, c'est aussi l'État le plus libre. Donc,
yes.
on pourrait s'inspirer de ce qui se passe au New Hampshire, surtout que c'est un État dans lequel il y a beaucoup de Canadiens français qui ont déjà immigré.
Le Freedom State, c'est
ça. Oui.
Donc, Free State Project,
ouais.
J'allais lire ça, on en a parlé à l'émission.
Ben oui, tout à fait.
Dans une fin d'émission, à un moment donné. C'est là que je suis né, j'en suis fier. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Tu travailles-tu de façon à avoir... as-tu des fois une pile de dossiers que tu te dis « Je vais attendre que l'actualité en parle, puis là, je vais en profiter pour sortir ce que j'ai trouvé » ou c'est vraiment au fur et à mesure?
Ça arrive. Ben, ça arrive, mais c'est pas quelque chose qui est voulu parce que lorsque j'ai une idée, j'ai un calepin, je note mon idée, puis il y a tellement de choses qui s'accumulent dans ce calepin-là que, veux pas, il y a un paquet de choses sur lesquelles je voudrais écrire, finalement, j'écris absolument rien. Mais des fois, il y a un sujet d'actualité qui ressemble, et je vais dire, ah oui, c'est vrai, j'avais déjà trouvé des stats qui étaient en lien avec ça, puis là, ça serait intéressant de les sortir ça, justement, parce que c'est quelque chose qui est devenu plus d'actualité. Donc, c'est pas quelque chose qui est recherché, mais c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent.
OK. En passant, si tu manques de calepin, on s'en est fait faire de connaître la suite, on pourra t'en envoyer.
On va y en expédier un, ça, c'est sûr. Pense à nous.
y a-tu... écoute, je t'avais... Juste pour finir, je t'avais parlé pendant dans un email, dire on pourrait peut-être parler des emplois verts pour terminer. Donc, les insuccès de subventionner des supposément emplois verts qui sont des catastrophes en bout de ligne de subventions trop élevées et tout ça. Donc, avais-tu sorti des exemples que tu avais sortis dans tes billets, dans le fond?
Ouais, ben, un des plus beaux exemples, puis vraiment un cas typique qui mérite d'être étudié, c'est ce qui s'est fait en Espagne. Parce que l'Espagne, ça a vraiment été un pionnier dans l'énergie verte, les emplois verts. Mm-hmm. Ça a commencé en 97. Vraiment, en 97, le gouvernement avait commencé à investir de manière massive dans l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la géothermie. Puis le gouvernement, à cette époque-là, avait pris cette décision-là, justement, parce qu'en Espagne, il y avait un taux de chômage qui était élevé. Puis on disait, ça prend un plan pour programme, ça prend un programme économique qui va nous permettre de créer des nouvelles jobs. Puis une dizaine d'années plus tard, lorsqu'on regarde le taux de chômage, il n'a pas diminué, il a même augmenté. Bon, c'est sûr qu'il y a eu la récession entre-temps, mais aujourd'hui, on est rendu à 20 %. Puis pour vous donner une idée, là, durant la Grande Dépression aux États-Unis, le taux de chômage maximum, si je ne me trompe pas, était atteint à peu près à 25 %. Donc, la situation en Espagne est quand même assez catastrophique de ce point de vue-là. Puis justement, il y a une université en Espagne qui a décidé de regarder c'était quoi le bilan de ce fameux programme d'emploi vert-là. Donc, ils ont regardé tous les programmes, les incitatifs, les subventions, le coût de l'énergie, c'était quoi les conséquences sur le marché de l'emploi. Puis leur conclusion, c'est quand même assez clair. Ils ont déterminé que pour l'énergie solaire, par exemple, pour chaque mégawatt d'électricité qui est produit, il y a 9 emplois qui sont perdus. Pour les mini-centrales hydroélectriques, c'est 5 emplois perdus par mégawatt qui est installé. Puis pour l'énergie éolienne, c'est 4 emplois perdus par mégawatt qui sont installés. Puis la raison qu'on découvre pourquoi c'était le cas, c'est que, premièrement, ils se sont rendus compte, comme je l'ai dit, ces formes d'énergie-là, pour qu'ils soient rentables, ils doivent être subventionnés. Donc, veut pas, l'argent doit être prêt à quelque part, puis veut pas, si on taxe des gens, on se trouve à ralentir l'activité économique. Puis le deuxième facteur, c'est que l'énergie produite par ces technologies-là est excessivement chère. Donc, lorsqu'on a des industries lourdes, puis leur facture d'électricité double, veut pas, il faut qu'ils fassent des coupures à quelque part s'ils veulent continuer à arriver. Puis, règle générale, leurs coupures, ils les font en mettant des gens à pied. Donc, si on regarde au niveau de l'Espagne, c'était un échec complet. Puis il y a aussi en Grande-Bretagne récemment qui ont fait une étude parce que aussi c'est un pays qui depuis longtemps investit dans l'énergie verte. Puis ils se sont rendus compte que pour eux, ils n'ont pas calculé tout à fait de la même manière. Là, ça n'a pas l'air trop professionnel de chercher comme ça, mais bon.
Mais je pense que c'était quoi, 4 emplois détruits par emploi vert créé?
Exactement. 3,7 jobs perdus pour chaque emploi vert qui était créé. Donc, encore une fois, c'est un programme qui non seulement n'a pas diminué le chômage, mais l'a fait augmenter.
Exact. Donc, c'est vraiment... Lisez là-dessus. Là,
ben oui, c'est ça, c'est sur le blog. Et là,
sur le blog, puis regardez sous Google aussi. Là,
ben oui.
Juste vous dire, faites éolienne et 6 000 foyers sur Google. Éolienne, 6 000 foyers. Vous allez trouver sur un article de contrepoint.org là, qui est absolument catastrophique.
Hey, merci beaucoup, David.
Ça m'a fait plaisir d'être là.
Là, le temps nous presse et vu que c'est la dernière, on voudrait remercier quelques personnes et dont toi, parce que aussitôt que je raccroche, on va remercier tous ceux qui ont passé dans le cadre de l'émission et merci parce que ça finit l'émission en beauté et on espère en tout cas te parler à nouveau parce que ça suscite beaucoup d'intérêt ta présence puis les gens, je pense, apprécient énormément ce que tu nous dis, mais surtout continue à nous écrire d'excellents billets comme tu le fais puis on invite les gens à consulter ton site internet le www.antagoniste.net.
Ah ben merci, puis j'espère que votre émission va être renouvelée pour la saison prochaine parce que c'était vraiment intéressant de vous entendre.
Ben merci à toi, puis on te souhaite une belle été. Prends soin de toi, puis prends des forces surtout.
Excellent.
Merci.
Salut. Merci.
Okay, bye.
Salut.
Donc c'était David.
David Gagnon.
Et malheureusement, on...
Le temps file,
le temps les
aiguilles tricotent.
Ouais, c'est ça. C'est toujours comme ça, cette émission-là. Hein?
Oui, tout le temps.
Hey, je dois remercier ceux qui ont passé à l'émission cette année. Et je sais qu'ils nous écoutent parce qu'ils viennent de faire une belle mention. Donc, Frédéric Têtu, je veux le remercier. Claire Joly, qui était là de la première émission. Ton ami aussi que tu nous as amené.
Jonathan Gagnon,
parce que la première émission a été difficile de ton côté.
Ah oui.
On a eu aussi cette année beaucoup de gens de l'IEDM. Donc, on a eu Vincent Gélosso, on a eu Germain Belzile, donc qui ont fait partie de l'émission. Joanne Marcotte, encore là, qui est venue. Yann Sénéchal, Rénal Duberger.
Ben oui.
Qui est venu à deux fois, à deux reprises. On a parlé avec Frédéric Boily aussi du conservatisme en Alberta. Là, je suscite un peu d'intérêt. Si les gens, vous voulez venir écouter nos vieilles émissions, là, c'est le temps. Martin Mars, on vient de parler de Martin Mars, qui est derrière tout le phénomène ou la fondation de... Hein?
Il a créé un monstre qui s'appelle antagoniste.net.
C'est ça. On a parlé aussi, Jonathan qui est revenu, il nous a parlé beaucoup de... Tu sais, tantôt, tu parlais de pays d'exemple. Mm-hmm. Donc, tous les pays scandinaves, l'Allemagne, on a parlé de ça. On a parlé à Guy Bolduc aussi, qui est une source de, mm-hmm. d'inspiration pour tout ce qui est entrepreneurship. Puis ça, c'est le côté à Danny dans l'émission. Sylvain Légaré, on n'a pas eu le maire, mais on a eu au moins celui qui est responsable des loisirs et des sports. On a parlé au président du conseil du patronat du Québec. Donc, M. Yves-Thomas Dorval, qui nous avait parlé du budget avant même les élections. La tweet chronique, j'en fais mention, parce que c'est quelque chose de nouveau sur l'émission. Le making of là, du film L'illusion tranquille, encore là, avec Joanne et Denis Julien, qu'on salue encore, et Frédéric qui était présent d'ailleurs à cette émission. Jean-Nicolas Gagné, qui participe à l'émission, donc qui est le rédacteur en chef à l'émission de Dumont. On a eu aussi, écoute, tu nous as fait une entrevue un vendredi matin chez toi, j'imagine en caleçon, avec Agnès Verdier-Molinier, donc directrice de la fondation d'IFRAP en France. Donc, on pense toujours que la France est à gauche, mais il y a des gens de droite là-bas.
Et puis, allez voir son site. Hein.
Oui.
On voit qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui s'en vient au Québec.
On a parlé du Free State Project, de Free Talk Live. On a parlé avec plein de gens. Écoute, je fais vite. Philippe David, minarchiste, deux fois. On a parlé aussi avec Adrien Pouliot de l'ADQ. Allez sur le site internet www.connaitrelasuite.com et on va, c'est sûr, bouger cet été. On va revamper le site internet. On va voir sous quelle forme tout ça, ça va continuer. On ne cache pas qu'on est, c'est sûr, très intéressé à continuer dans la même veine, mais on veut surtout faire un scale-up. Excusez l'anglicisme, là, mais on veut promouvoir davantage et améliorer le tout. Moi, Danny, garde, je te remercie. 17 émissions, ça a été un plaisir. Puis on salue notre ami Denis qui est avec nous ce soir. Donc,
un spectateur,
mais qui fait partie de la famille. Et je tiens à vous remercier, surtout ceux qui nous ont écoutés tout au long de la saison, qui ont participé à l'émission. Écoute, David, c'est arrivé comme ça. C'est tout des gens qu'on a rencontrés en plus au Réseau Liberté Québec. Ouais, ouais. On remerciera jamais assez le Réseau Liberté Québec. Ouais. On a participé à l'événement qui a eu lieu à Montréal. Donc, on doit se laisser, il reste à peine 30 secondes. Faut que je ferme le tout. Mais écoutez-nous cet été et venez télécharger l'émission sur notre site Internet.
Et le Twitter pour avoir des nouvelles. Connaître suite.
C'est ça. Bon été tout le monde.
Bye bye.